Macron et ses sbires veulent-ils détruire définitivement le peuple de France? La résistance des Français est-elle à la hauteur des défis actuels? Rémi Tell, essayiste et journaliste, va nous plonger au cœur des enjeux les plus explosifs avec ses analyses. Vous êtes bien sûr sur Géopolitique Profonde et on est tous ensemble contre le système générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Les 1 an, ça fait 1 an que cette lettre est là. Vous êtes déjà plus de 1200 abonnés. Merci à vous. Abonnez-vous à cette lettre. Vous aurez le privilège de lire le nouvel article du général de Lavarde. Il est là, il est présent. Allez-y, vous cliquez en dessous. Le lien est tout présent. Allez-y. Ce soir, on va parler politique. On va accueillir un ami qu'on aime beaucoup ici à Géopolitique Profonde. C'est Rémi Tell pour son dernier livre, À l'encre du néant. Une compilation de nombre de ses chroniques. Pourquoi ce bouquin, tiens, cher Rémi ?
Alors, bonsoir Mike, bonsoir à tous. J'écoutais le générique de Géopolitique Profonde avec ce thème de Lacrymosa. Et ben voilà, on vit une époque lacrymale, un peu comme avait tenté de la retranscrire par la musique Mozart. Et donc je me suis posé la question de savoir quels étaient les déterminants de cette période qui semble minée de toutes parts. Un jour c'est la guerre, la veille c'était la pandémie. Le lendemain, c'est des trahisons du peuple français, des transgressions éthiques inédites. Et il me semble qu'il y a une toile de fond commune à toutes ces crises. Je crois qu'on est arrivé aujourd'hui au stade terminal de la modernité, cette espèce de grand emballement de la société des machines qui, depuis 250 ans, a fait beaucoup de bien, notamment dans le monde occidental, mais qui a aussi créé de très, très grandes fragilités et qui, aujourd'hui, utilise la condition humaine, la liberté humaine, comme variable d'ajustement pour tenter de masquer son effondrement. Et donc, avec des exemples très spécifiques, et en reprenant...
C'est pour ça le néant ?
Oui, et puis à l'encre du néant, c'est-à-dire d'essayer de tirer quelque chose de ce nihilisme-là généralisé, pas simplement documenter le désastre, parce que sinon ça ajouterait une touche de désespoir au désespoir collectif, mais plutôt de montrer quelle est la logique, selon moi, et donc une fois qu'on a trouvé la logique, comment il est possible d'y échapper ?
On a une chronique que j'aime particulièrement, c'est « La chute se précise en silence ». Est-ce que on est digne, nous, ici en France, de nos prédécesseurs ?
Alors oui et non. On pourrait avoir une analyse un peu défaitiste en se disant « Regardez, on n'a quand même pas réussi à faire grand-chose, on est certes menacé, chaque jour il y a des comptes en banque de nos amis qui ferment, on a des camarades qui se retrouvent en garde à vue, etc. Mais enfin, on n'a quand même pas sacrifié notre vie comme l'ont fait les résistants dans les années 40. » En même temps, on peut se consoler en se rappelant que la situation était plus périlleuse d'un point de vue physique, certes, mais aussi infiniment plus simple. C'est-à-dire qu'on était dans un contexte avec une puissance tierce qui envahit la France, et finalement les coordonnées étaient connues depuis que les nations sont les nations depuis le XVIIe siècle. Là, aujourd'hui, les catastrophes arrivent de toutes parts, Et le lundi, c'est les enfants transgenres. Est-ce qu'on va me retirer la garde de mes enfants si je refuse qu'ils deviennent transgenres? Le mardi, c'est je ne pourrai plus rentrer chez moi si j'habite dans la zone SILT à côté des Jeux Olympiques et que je ne passe pas le contrôle de sécurité. Le mercredi, c'est la légalisation de l'euthanasie. Le jeudi, c'est la menace nucléaire en Ukraine, etc., etc., etc. Et donc, ces balles nous sont envoyées de toutes parts et on est perdu dans ce moment-là, et d'où l'utilité, je crois, de s'arrêter deux secondes, essayer de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre en fait ce qui nous arrive.
Bah, on va prendre du recul et on va parler de cet excellent livre qui est édité chez l'ami Sylvain Durin du Verbo, qu'il faut soutenir. Voilà un éditeur qui prend des risques et qui édite d'excellents auteurs, dont notre ami François-Xavier Consoli. Mais avant ça, je vais faire un peu de tour de table. Alors, à tes côtés, tu as Stéphanie Reynaud, journaliste, comédienne. Comment ça va, chère Stéphanie? Gilet jaune aussi.
Oui, gilet jaune, entre autres, bien sûr, et contre les passes et les laissez-passer en tout genre. Voilà, je suis ravie, je suis très bien entourée.
Et qui
reviennent, ça s'en va et ça revient. Et je suis très bien entourée, voilà, d'hommes, hein. Encore.
T'as bien entouré d'hommes, toi, j'ai l'impression.
Pourquoi pas, mais alors.
Il y en a qui n'aiment pas du tout.
Hein. Non, mais j'aime aussi être entouré de femmes parce qu'il y en a des sacrément intéressantes dans la dissidence ou la résistance, appelez ça comme vous voulez.
Pourquoi t'as utilisé. Quelle est la différence entre dissidence et.
Mais j'ai du mal à faire la différence. Résistance ramène étroitement à la Seconde Guerre mondiale, alors que dissidence plutôt à l'ex-URSS. J'ai une souplesse totale.
J'ai l'impression qu'on vit les deux.
Voilà, et donc moi je m'adapte à l'interlocuteur, celui qui me dit « j'aime pas le terme dissidence, tu me dis résistance ». Je dis « ok, surtout en interview ». Donc je respecte mon interlocuteur, ça me dérange pas parce que les deux me conviennent.
Merci à toi, chère Stéphanie. En face, un nouveau Martin Loisillon, aussi comédien, metteur en scène. Voilà, il met en scène une soirée chez Offenbach au théâtre de Passy, c'est de l'opéra.
Exactement.
Bonjour, cher Martin.
Bonjour.
Alors, je suis très content de vous recevoir, cher Martin, parce que vous avez en plus un appel à lancer, l'appel des souverainistes à l'union. Il faut enfin cette union.
Oui, avec un collectif de citoyens, de gens expérimentés dans l'élection, puisqu'on a fait beaucoup de listes citoyennes, aux régionales, départementales et législatives, avec des candidatures sérieuses. On ne peut pas accepter cette situation où on a deux listes Frexit. Aux européennes, d'autant plus que les européennes ont la particularité que c'est une élection à un tour, à la proportionnelle directe. Donc avec 5% des voix, en France, il y a 5 élus qui passent directement au Parlement. Voilà. Et donc on essaye, et pour parler concrètement, de faire en sorte que Florian Philippot et ses équipes, et puis François Asselineau et ses équipes, se mettent d'accord.
Alors, vous avez fait une manifestation devant chez Monsieur Asselineau. Comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé.
Enfin, c'est pas vraiment une manifestation.
C'était convivial. On a marqué un peu le coup. On s'est rassemblés devant le siège de l'UPR. En l'occurrence, parce que il faut dire les choses. Pour l'instant, dans les échanges qu'on a eus, je peux pas m'avancer en disant que les patriotes sont d'accord. Mais en tout cas, ils nous ont répondu et on a eu des échanges qui encore le laissaient un peu d'espoir. Voilà. Et pour l'instant, avec l'UPR, non pas qu'on a eu des réponses totalement négatives, mais j'ai un peu regardé l'émission de François Asselineau où il est venu ici. Pour l'instant, sa position publique est celle du refus. Et nous, toutes les excuses qui ont été données ne sont pas à la hauteur de la situation. Donc voilà, on essaye un peu de marquer le coup, on s'arrête pas là, on a d'autres démarches, on a des personnalités un peu publiques qui sont quand même issues des mouvements citoyens qu'on a vus ces derniers temps, qui essayent de nous aider au moins à pouvoir mettre en place cette médiation.
En tout cas, il n'y a pas de préférence chez vous, chez l'un, ni chez l'autre. Hein. Vous n'êtes d'aucune écurie, non. Vous êtes juste un citoyen qui veut une union, c'est
oui,
ça.
Oui, mais surtout, on est des citoyens engagés, qui passons du temps dans ce combat-là, et donc on est pragmatique et on voit ce que peut nous apporter 5 députés européens qui seraient sur la liste et sur la ligne politique de celle de François Asselineau et de Florian Philippot. On l'a vu avec Virginie Joron et feu Michel Rivasi. Ce sont des personnes avec qui moi j'ai des désaccords politiques. J'avais pas compris que Michel Rivasi traite d'extrême droite un événement comme le CSI, mais il n'empêche qu'ils ont fourni des éléments utiles à la résistance, ce qu'on évoquait tout à l'heure, au moins à la compréhension de ce qui nous arrive dans le chaos qui a été décrit en début d'émission.
Merci beaucoup, cher Martin.
Merci à vous.
Et à votre droite, l'unique, le fabuleux, le merveilleux, l'homme à la cravate d'or, qui tout ce qui touche se transforme en or, c'est le roi Midas. Philippe Perlin. Salut, cher Philippe.
J'ai trouvé la pierre philosophale.
Comment ça va, cher Philippe ?
Très bien, en pleine forme.
Aujourd'hui, un édito ?
Un édito sur Total qui envisage de se faire coter à New York plutôt qu'à Paris. Donc, je vais expliquer ce que ça signifie. Et puis, c'est aussi une question liée à la souveraineté. Donc
nous n'aurons plus notre Total dans le CAC 40, alors.
Et ça risque, oui, malheureusement. Et c'est même plus grave que ça, donc j'en parlerai tout à l'heure.
Voilà. Oh là là. Eh ben, on va se retrouver dans ce pays bientôt, en calbut et avec des lances et des boucliers. C'est l'avenir de ce pays. C'est vraiment, enfin, quand on entend ça, là, c'est dit quand même. Enfin, je sais pas, même Total, c'est quand même une entreprise qui a, je sais pas moi, qui a un siècle, qui a été fondée ici dans ce pays. Enfin, je sais pas, c'est...
Oui, ce qui est incroyable, c'est le processus d'accélération, et notamment depuis 4 ans avec le Covid, et où ce qui semble être inimaginable fait désormais notre lot quotidien, quoi. Et dans toutes les directions, on a un gouvernement qui nous donne des leçons sur la dette, alors qu'il a créé 1000 milliards de dettes. Depuis la première élection d'Emmanuel Macron, on a cette inversion accusatoire qui secoue de toutes parts la société française. Regardez les débats des dernières heures autour de la GPA, où aujourd'hui ce sont ceux qui enfreignent la loi, qui viennent donner des leçons aux Français, qui la respectent, en leur expliquant que c'est eux d'affreux réactionnaires, etc. Bon, donc rien, au plus aucune certitude ne tient. Les entreprises, effectivement, trahissent le pays qui leur a permis de s'épanouir. Bon, c'est le point où nous en sommes aujourd'hui.
Mais dans cet excellent bouquin, on a aussi une forme de retour à la spiritualité. La spiritualité est excessivement présente. Et aujourd'hui, il se trouve que le journaliste M. Beaugrand, qui a fait faire une GPA avec son mari pour avoir un enfant, nie le fait que ses enfants aient une mère. Comment vous avez pris ça ?
Bon alors, Christophe Beaugrand est un imbécile. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Mais il se trouve que c'est aussi que Christophe Beaugrand est également un délinquant. Et ça, on le sait depuis quelques années maintenant. Et qu'il vient se vanter à la télévision française, avec un livre d'ailleurs, parce que je crois qu'il a publié un livre, d'avoir donc transgressé la loi française et d'avoir utilisé une femme, et même deux femmes en l'occurrence, comme mère porteuse pour lui permettre avec son époux d'accueillir deux enfants dont il nie complètement la filiation en expliquant que les deux femmes impliquées dans ce processus de GPA ne sont pas les mères des enfants. Et tout ça trouve le service public, beaucoup de grands journaux pour accueillir ce discours. Alors, moi, je défends la liberté d'expression, et quand on a des principes, c'est pas des principes à géométrie variable, et donc je pense que Monsieur Beaugrand doit avoir le droit de défendre cette vision des choses. Mais là, il s'agit pas que d'une vision des choses, il a vraiment enfreint la loi française. Et puis surtout, ce serait peut-être bien que, dans l'autre sens, on accorde aussi un peu de droit de cité à ceux qui disent, comme regardez cette jeune femme Olivia Morel par exemple aujourd'hui, que la GPA est un drame, c'est un drame pour les femmes qui sont utilisées dans ce cadre-là, c'est un drame pour les enfants qui naissent de GPA, et on est dans un processus de retour à la barbarie, c'est-à-dire de chosification des hommes et des femmes. La place de Monsieur Beaugrand n'est certainement pas aujourd'hui d'aller se pavaner comme ça.
Et puis c'est un acte de public place aussi, parce que c'est un grand bourgeois blanc, tiens, je vais rajouter ça, oui, qui a les moyens d'acheter un enfant, quoi.
Il a acheté ses enfants, à nouveau au mépris non seulement de la loi française, mais même des règles morales les plus ancestrales, d'une certaine façon, même de ce qui est non dit dans les rapports sociaux, c'est-à-dire l'idée de ne pas transformer l'autre en objet de commerce. Lui a trahi tout ça, il s'en vante sans vergogne à la télévision, et sur le service public, on trouve ça formidable. Et ce sont ceux qui, finalement, défendent une vision, somme toute assez banale, de la parentalité, du lien des uns avec les autres, qui sont sommés de s'expliquer, sommés de fournir des justifications dans un processus d'aversion accusatoire qui est devenu l'une des armes favorites du système des cadres dans lequel nous nous trouvons.
On a des ministres qui ont soutenu M. Beaugrand. Est-ce que ça signifie que le macronisme, c'est le retour à une guerre de classe ?
Alors, jamais autant que sous le macronisme, la sociologie n'a pris le pas sur la politique. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, vous aviez des mouvements idéologiques qui étaient hétéroclites. À gauche, il y avait une gauche prolétaire, celle des usines, et puis celle des intellectuels du boulevard Saint-Germain. De la même façon, vous aviez la droite prolo, comme on disait parfois, et puis la droite des capitaines d'industrie. Aujourd'hui, avec le macronisme, le portefeuille est devenu vraiment la seule variable explicative du vote et de la sociologie électorale. Et donc, on a une logique qui a été portée à son paroxysme, notamment depuis 2017 et puis depuis 2020 avec la crise du coronavirus. Et donc, oui, Monsieur Beaugrand incarne cette forme d'oligarchie qui, parce qu'elle détient un peu de capital, parce que elle a un pouvoir qui est bien réel, qui est celui de s'exprimer, de représenter le monde et de d'être sur les plateaux télé, quoi, s'accorde tous les privilèges au mépris des plus faibles, des plus vulnérables, de ceux qui se trouvent dans la précarité et des enfants surtout.
Ce que j'aime aussi dans cette compilation de chroniques, c'est que voilà, tous les sujets, aucun sujet n'est tabou. Tout est pris en compte. On parle beaucoup, évidemment, je répète, de spiritualité. Prend aussi des risques. Il faut liquider les Républicains, je pense qu'il le faut. Quand on écrit ce type d'ouvrage, quand on compile ce type de chronique, qu'est-ce qu'on se dit en amont? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut enlever, qu'on veut rajouter? Comment ça se passe?
L'époque est aussi une chance. Pourquoi? Parce que justement, comme tout part à volo, il n'y a plus aucun tabou. Il y a des questions qui étaient taboues il y a quelques années et qui reviennent aujourd'hui dans le débat public. Lors de la constitutionnalisation de l'avortement, par exemple. On s'est dit, est-ce que vraiment...
Mais ça, pour le coup, je remarque que la droite a très peu abordé ce sujet.
Oui, parce qu'elle considère... Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai commencé mon combat contre le Covid, j'avais été reçu par un responsable politique de premier plan, dont je tairai le nom, et qui m'avait dit, il y a deux sujets tabous dans la vie politique française, la franc-maçonnerie et l'avortement. Et donc, évidemment, la droite a intériorisé le regard social et l'hégémonie politique, l'hégémonie culturelle de ses adversaires progressistes. Et donc, elle a cessé de border de tels sujets comme celui de l'avortement. Moi, j'ai pas d'opposition de principe à la question de l'avortement. En revanche, c'est vrai que quand Mathilde Panot a évoqué la constitutionnalisation il y a 6 mois ou 1 an, tout le monde lui a ri au nez, y compris à gauche. Le spectre paralysant est passé entre deux. Et à la fin, vous avez une grande partie des députés LR qui votent en faveur de la constitutionnalisation de l'avortement.
Il y a quelque chose comme d'assez important dans ça. C'est-à-dire qu'il y a l'avortement pour les nouveau-nés. C'est une mort de nouveau-nés, de futurs nouveau-nés. Il y a bientôt le suicide assisté, j'imagine, pour les plus âgés. Et... la guerre, peut-être en Ukraine ou ailleurs, dans les âges intermédiaires. On peut dire que le macronisme apporte la mort.
Le progressisme est fondamentalement une culture de mort et brûle, si j'ose dire, la vie par les deux bouts. Et en fait, quand au début de la pandémie, on a dit « mais vous vous rendez compte, c'est plutôt une bonne chose parce que oui, certes, on suspend les libertés, oui, certes, il y a beaucoup de... on suspend les rites funéraires, etc. Mais c'est au nom de la protection de la vie. » Et en fait, on se méprenait sur le sens que le progressisme donne à la vie, qui correspond pour lui uniquement à l'existence dans son aspect biologique. Et dès lors que vous ne valez plus le coup, dès lors que vous n'avez plus d'impact positif sur la logique de marché, dès lors que vous devenez obsolète, eh bien on vous sacrifie au début comme à la fin. Oui, le progressisme est une culture de mort et d'une certaine façon organise un retour à la barbarie. Donc la notion même de progrès au cœur de l'idéologie progressiste mériterait d'être interrogé par.
Mais est-ce que les gens ne sont pas eux-mêmes devenus progressistes? Parce que les questions d'IVG, de suicide assisté, visiblement, c'est passé dans les mœurs. Et on peut dire qu'une majorité de Français, ils sont favorables.
Oui, un sondage récent indiquait même que 59% des Français seraient favorables à la GPA. À titre personnel, je crois à peu près à la pertinence des sondages. Et donc je pense qu'il peut toujours y avoir des décalages et puis quelques petites manipulations, mais l'ordre de grandeur est là. Il y a une sorte d'impensée aujourd'hui morale, de célébration du néant. Et c'est ce que j'essaie de dire dans cet ouvrage. C'est-à-dire que comme on ne contrôle plus rien dans nos vies, puisque la société des machines prend à peu près les décisions sur tous les aspects fondamentaux de nos vies, eh ben on trouve des libertés de consolation. Le fait de dire, moi je m'appelle plus Michel, mais je m'appelle Christina. Hier, je buvais un verre avec un ami à Toulouse qui me racontait qu'il a un collègue de travail qui s'appelait Quentin et qui demande qu'on l'appelle Zelda maintenant. Ça, c'est une liberté de consolation. Et puis, puisque le néant est partout, Shakespeare disait « il faut embrasser ce qu'on ne peut éviter », eh bien, il y a une tentation de célébrer aussi le néant et de célébrer cette culture de mort. On peut être favorable à l'avortement, mais lorsqu'on fait une grande cérémonie républicaine, comme c'était le cas il y a quelques semaines, où on chante, on se fait la bise, etc., comme s'il s'agissait de quelque chose de joyeux, en fait, là, on est bien dans la célébration du néant le plus total.
Et pourquoi ? Parce que... Et Dieu dans cette affaire ? Parce que Dieu est parti, Dieu a quitté la sphère publique, et donc du coup, il se passe ce qui se passe ?
Alors, il est certain que les sociétés se développent toujours sur un terreau d'absolu. Et donc, en 1793, le terreau d'absolu sur lequel fonctionnait la société française, qui était le terreau chrétien, a été quand même profondément remis en cause par le régicide et à travers lui, par le déicide. Parce qu'au fond, abattre le roi, c'était abattre celui dont on disait qu'il représentait, c'est-à-dire Dieu sur terre. Et Camus, qui n'était pas un fasciste d'extrême droite, explique bien dans L'homme révolté comment l'époque des Lumières devait nécessairement être contemporaine de celle du Marquis de Sade. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit parce que lorsque cet absolu-là est détruit, lorsque le repère fondamental vacille, lorsqu'il est piétiné, alors la conséquence logique, c'est une forme de célébration de tous les possibles, y compris dans leur dimension la plus abjecte. Et donc oui, on vit un peu comme des orphelins, en fait, depuis 250 ans. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'avait dit au tout départ, lors de sa première campagne. Il avait dit « la figure du roi a disparu et les Français sont perdus ». Je pense qu'il l'avait théorisé. Malheureusement, il est en fait une sorte d'expression paroxystique de la logique qu'il dénonçait à l'époque.
Et comment on fait pour que, justement, des gens nous rejoignent, se disent quand même, cette société qu'on nous annonce, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Ce transhumanisme, toutes ces choses, toute cette culture de mort. Comment on fait ? Parce que on est, alors là, je suis content, on est 2200 personnes qui regardent l'émission. Pour l'instant, c'est pas mal.
Salutations à tous.
Pas mal. Mm-hmm. Mais je veux dire, on n'a pas les 5-7 millions de TF1. Comment on fait pour que, une opinion publique, dans son ensemble, se dise, c'est quand même ce que fait l'État, là, c'est pas bien.
Ne sous-estimons pas ce qui a déjà été accompli. Regardez, par exemple, sur le champ des médias alternatifs, l'ensemble des initiatives qui, depuis quelques années, fleurissent et réunissent autour d'elles des centaines de milliers de Français. Et parfois, avec des logiques politiques qui fonctionnent un peu de proche en proche. Vous voyez, je me rendais... il y a 3 jours à Toulouse, et puis en discutant avec le chauffeur de taxi, je me suis rendu compte que il avait accès, mais de façon un peu indirecte, à des contenus produits par Géopolitique Profonde, par TV Liberté, etc. Et en fait, ces idées-là font leur chemin. La difficulté, c'est qu'elles avancent moins vite que le tourbillon infernal qui détruit tout sur son passage, qui est le tourbillon dans lequel on est pris. Et donc on a le sentiment d'être complètement impuissant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et jamais l'écart entre le pays légal et le pays réel n'a été aussi important qu'aujourd'hui. Il y a des millions de Français qui ont tout simplement débranché, hein, qui ont débranché la télévision, qui regardent plus TF1, qui regardent plus BFM TV, peut-être qui regardent pas non plus Géopolitique Profonde, mais au moins ils ne dépendent plus du discours dominant. Ces gens-là existent.
Ils existent, mais est-ce qu'ils sont résignés ?
Ils existent, on n'en parle pas, on ne les montre pas, ou très peu souvent. Et donc, ça participe du sentiment d'impuissance, puisqu'on se dit, on est tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Simplement, ces gens-là ne sont pas sur les écrans de télévision. Sont-ils résignés ? Sans doute. Ont-ils des raisons de l'être ? Sans doute. Sans doute. Parce que moi, je ne crois plus aujourd'hui au processus politique au sens institutionnel du terme. Il me semble que là aussi, on est arrivé au bout d'une logique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas présenter de candidats aux élections. Je dis que la logique des machines, justement, cette technologique d'une certaine façon, a pris le pas sur la politique et qu'elle a vidé complètement de sa substance avec des traductions institutionnelles comme l'Union européenne et la dépossession totale de souveraineté. Mais je comprends, moi, quand on me dit « ça ne sert plus à rien d'aller voter » et de toute façon, quel que soit le candidat pour lequel on vote, à la fin, ça ne change rien et c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres solutions qui existent. Et je pense qu'elles sont en train de décanter. On est à quelques mois d'un événement majeur pour la France, mais aussi pour une partie du monde, les Jeux Olympiques. Pour la première fois depuis quelques années, le monde se retrouve dans un même endroit, dans un même lieu. Et peut-être que ça va cristalliser beaucoup d'oppositions et peut-être même quelques étincelles salutaires.
Mais c'est vrai qu'on est beaucoup dans la réaction, ça c'est vrai. Et donc comment être dans l'action ?
Alors déjà, pourquoi on est dans la réaction ? Il est vrai qu'on est dans la réaction en permanence. C'est-à-dire qu'on est contre quelque chose. Mmh. Un jour, on est contre les injections, le lendemain, on est contre la légalisation de l'euthanasie, on est contre les traitements hormonaux pour les enfants de 5 ans, on est contre le marché européen, l'électricité, on est contre... C'est vrai. La logique de la société des machines nous condamne à cette position réactive. Puisqu'en fait, on a une sorte de rouleau compresseur face à nous qui agit comme un dissolvant, sur les cultures, sur la sociabilité, sur le fonctionnement économique, donc sur la géopolitique, etc., etc. Et donc, ça nous pousse à être dans cette situation du ramasseur de balles où, bah, je vous dis, un jour, c'est sur le champ sociétal, le lendemain, c'est la menace nucléaire, le surlendemain, c'est la manipulation d'une épidémie, etc., etc. Donc ça, il ne faut pas se désespérer d'être dans une posture réactive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'en contenter. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ferait bien, parfois, peut-être, de prendre un petit peu de recul sur l'actualité immédiate, parce que l'énergie que nous déployons à dire « Ah bah regardez, il y a encore un migrant qui a assassiné un Français alors qu'il venait d'être relâché par la justice », l'énergie qu'on déploie sur « Bah voilà, il y aura le QR code pendant les Jeux Olympiques », vous ne pourrez même pas rentrer chez vous. Est-ce qu'on se rend compte, Mike, hein, là, il y a 200 000 Français qui vivent dans la zone SILT. Ils vont être passés au crible de 16 fichiers de police. Ça a déjà été le cas pour les candidats au bénévolat aux Jeux Olympiques. Il y en a des centaines qui ont été recalés sur des bases idéologiques. Parce qu'on considérait qu'ils appartenaient à l'extrême gauche, à l'extrême droite ou qu'ils étaient islamistes. Donc là, on va faire la même chose avec les 200 000 Français. Le ministère de l'Intérieur a dit que les Français qui ne passeraient pas cette étape-là ne pourraient plus accéder à la zone SILT et donc ne pourraient plus accéder à leur domicile ou accéder à leur travail si leur travail se trouve dans cette zone. Donc on a des gens qui vont perdre leur emploi, on a des gens qui vont être chassés de chez eux pour une manifestation sportive. Voilà où nous en sommes. Et c'est normal de s'indigner, c'est normal de consacrer des émissions, de consacrer du temps sur les réseaux sociaux à le dénoncer. Mais quand on prend les choses les unes après les autres, eh ben on perd le point de vue global. Or, c'est ce point de vue global qui nous permet de comprendre où nous nous trouvons et de sortir de la pièce, d'une certaine façon.
Du coup, l'action, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est l'action aujourd'hui ? Est-ce que c'est la manifestation ? Est-ce que c'est la pétition ? Est-ce que c'est l'élection ? Ah non, tu ne crois pas à l'élection. Donc, qu'est-ce que c'est ?
Sur la manifestation, dans le prolongement de mon propos sur l'élection, il me semble que manifester aujourd'hui, c'est toujours faire le pari d'une logique démocratique qui a en fait complètement disparu. C'est-à-dire qu'effectivement, j'en ai été un acteur avec des centaines de milliers d'autres, quand il y a eu les manifestations, par exemple, contre le pass, dans un pays normal, dans une démocratie normale, fonctionnelle, une manifestation où vous réunissez à Paris 250 000 personnes un samedi, ça fait la une des journaux. Dans une démocratie dysfonctionnelle, personne n'en parle, et donc personne ne le voit. Donc soit on continue à s'entretenir d'illusions et à jouer ce jeu-là, soit on décide de passer à autre chose. Bon. Moi, je crois qu'il reste des leviers, qui ne sont pas des leviers institutionnels et qui ne sont pas forcément des leviers barbares non plus ou violents. Regardez par exemple ce mouvement qui avait eu lieu il y a quelques années. C'était dans notre jeunesse, Mike, c'était les auto-entrepreneurs qui s'étaient rebellés contre une réforme, je crois, du régime des auto-entrepreneurs, qui avaient dit « maintenant, on ne paye plus. Voilà, on arrête. Désobéissance fiscale. Ben, » quand on fait la désobéissance fiscale, on arrête de nourrir la bête. Hein. Et ça, ils sont terrorisés par ça. D'où le prélèvement à la source, parce qu'ils ont bien compris que l'un des derniers leviers réels de résistance pour la population, c'est la désobéissance fiscale. Je renvoie sur ce sujet à des auteurs comme Thoreau, par exemple, ou Emerson aux États-Unis. Il y a des leviers qui peuvent être encore mobilisés. Ce qu'il faut, c'est une forme d'organisation, et ça suppose de prendre du temps, de pas simplement être dans une posture réactive, de se donner aussi quelques moyens financiers, etc. Mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait jouable. Et je crois vraiment qu'il faut pas en désespérer. Les circonstances extraordinaires font les initiatives extraordinaires aussi. Alors oui, ça met du temps à décanter. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je juge avec énormément de sévérité aujourd'hui les candidats souverainistes, quel que soit le drapeau sous lequel ils se présentent, parce qu'on ne peut pas expliquer matin, midi et soir que la France est en danger de mort, que la nature humaine elle-même est en danger, et en même temps, pour une question de place sur une liste ou de taille de sa tête sur l'affiche, refuser de faire une union qui, certes, n'additionne pas forcément des intentions de vote, mais aurait au moins le mérite de mettre en cohérence le discours et les actes. Si la France est en danger de mort, et oui, je pense que la France est en danger de mort, alors cela mérite de laisser son petit ego, sa petite chapelle de côté, et de faire cause commune. J'espère qu'on aura ce débat. Moi, je juge avec beaucoup de sévérité aussi nos propres rangs. Donc c'est pas de l'autosatisfaisite que je vous donne aujourd'hui. Je dis simplement que tout n'est pas perdu. Je termine par ça. Il y a deux façons pour le diable, d'une certaine façon, de d'assurer sa victoire, de faire croire qu'il n'existe pas et de faire croire qu'il a déjà gagné.
C'est vrai. Merci beaucoup, cher Rémi. On va passer au grand débat avec tous nos amis autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces.
Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.
Merci à vous d'être si nombreux, déjà 3000 personnes en même temps. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, c'est celle du mois d'avril, les 1 an. Et puis, nous serons bientôt 200 000. Continuez à vous abonner, encore 2500 personnes. Regardez, on a fait ça vendredi, il y avait 193 000 abonnés. Là, on est 197 600 ou 700, quelque chose comme ça. Abonnez-vous à 200 000. On invite tout le monde et on fait une grande fête. Voilà, j'ai promis, juré, craché, vous allez voir.
Ça peut être avant la fin de l'émission.
Ce sera peut-être avant la fin de l'émission, espérons. Pas la grande fête, les 200 000. Cher Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses, tiens?
Alors, j'ai trouvé très intéressant son discours sur la GPA. Effectivement, alors déjà, le macronisme, pour moi, c'est la porte ouverte à une société morbide. Effectivement, morbidité à tous les étages, célébration de la mort, mourons plus vite si on est moins performant, si on est plus très utile. Et la GPA, c'est aussi, évidemment, la porte ouverte à l'eugénisme. C'est-à-dire qu'apparemment, ces gens choisissent leur bébé sur catalogue, avec des couleurs de peau, de cheveux, les yeux bleus, voilà, et puis le sexe et tout ça, voilà, je veux mon bébé parfait. Et ça a quelque chose d'un peu angoissant quand dans une société, on veut complètement éliminer tout ce qui est imparfait, qu'on veut une société propre. Alors effectivement, eugénisme, transhumanisme marchent main dans la main, et c'est tout ça est mis en place par cette fameuse plutocratie, c'est-à-dire que les gens qui ont le pognon, ils décident des lois, ils les réécrivent, ils dénaturent le droit, et c'est eux qui font l'histoire et qui décident du bien et du mal, quand bien même est-il dévoyé, comme on le voit actuellement. Ça m'a fait penser à tout ça, en fait.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'action ? Voilà, comment on doit agir ? Voilà, parce qu'on a les constats, mais comment on doit agir ?
Agir, je suis d'accord, moi je serais peut-être sur une des listes, il n'empêche que je garderai ma souveraineté d'esprit, c'est-à-dire dans ma chaîne, Monsieur Asselineau, Monsieur Philippot, Francis Lalanne bien sûr, sont les bienvenus, et d'autres, Frexiteurs comme on dit, Donc là, on ne m'enlèvera jamais ma liberté, puisque, attention, appartenir à un parti politique, c'est potentiellement aliéner son esprit à quelqu'un, donc il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Donc je suis comme Martin Loisillon, ici présent, je suis pour une union des Frexiteurs, et quand bien même, effectivement, 1 plus 1 égale, n'égale pas forcément 2 en jeu électoral, ça sera toujours mieux de s'unir. Je pense que c'est beaucoup plus sain, et ça fera avancer le Schmilblick beaucoup plus rapidement. Voilà ce que j'en dis. Donc je suis pour l'union. Et voilà. Et moi j'ai dit oui à Francis pour éventuellement être sur sa liste. Voilà. Mais je suis une femme qui reste libre et qui est intéressée aussi par les autres Frexiteurs qui sont très intéressants.
Cher Rémi, tu veux dire quelque chose ?
Non. Alors je ne condamne pas l'engagement électoral. Hein. Je trouve que c'est d'une bonne chose, ne serait-ce que pour qu'on ne puisse jamais nous reprocher de ne pas avoir tenté le coup.
Voilà, exactement. Voilà. On est d'accord.
Simplement,
tout à fait.
On en connaît tous l'issue.
Les limites.
On sait qu'à défaut d'une exposition médiatique, dans le cadre, par exemple, des débats télévisés, réunissant l'ensemble des candidats, on n'a aucun candidat Frexiteur qui est invité. Je ne crois pas que M. Philippot ou M. Asselineau aient été invités. C'est objectivement scandaleux.
On ne parle pas beaucoup des européennes. On se demande même s'il y a des élections.
Oui.
C'est vrai. Hein.
Mais parce que les gens ont intériorisé que l'importance relative du processus électoral aujourd'hui.
Cher Martin, qu'est-ce que vous en pensez de cette discussion qu'on a tous entre nous et de ces actions aussi qui doivent être menées ?
Nous, on s'est mis en action. Je vis dans le sud de Paris, dans le département de l'Essonne, et on s'est mis en action localement et en partie avec l'initiative qui avait été portée par Louis Fouché et les collectifs Réinfo Covid. Et localement, on avait organisé un grand rassemblement à Massy en janvier 2022, je crois, avec comme thème la résistance locale en temps de crise globale. Et donc, je pense que effectivement, il y a un monde qui nous échappe. Dans ce qui a été évoqué, finalement, il y a un combat entre diable et Dieu qui se matérialise sur Terre de toutes les façons qu'on a décrites et sur lequel on peut sentir qu'on a peu de prise. Mais il y a aussi une sorte de fiction qui est que la société contre laquelle on essaye de résister maîtrise tout. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui ne maîtrisent pas, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par la communication et par le fait que les gens se soumettent avant même d'avoir...
Lesquelles, par exemple ?
Des restrictions, vous avez toutes les mesures sanitaires. Il y a tout un tas de gens qui les ont respectées parce que c'était demandé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas respecté.
Qu'est-ce que ça veut dire de notre société ?
Mais c'est ce qui était un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une société du néant, je pense que les gens sont perdus, ils n'ont plus aucune colonne vertébrale, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'échelle de valeur, le bien et le mal n'existent plus, tout se vaut, tout dépend de votre point de vue, et moi je ne suis pas contre, et puis si c'est son droit, tout est pris avec cette légèreté-là. Donc ça crée des êtres vides et des êtres incapables d'agir, et qui n'ont plus de force d'agir. Voilà. Et donc après, dans l'action, moi je pense qu'il faut au contraire donc, devenir quelqu'un localement, il faut être quelqu'un là où on est. Voilà. Donc j'étais venu ce soir pour parler de cet appel qu'on fait avec les listes souverainistes, mais on a bien conscience des limites qu'elles représentent, c'est-à-dire c'est un microcosme, c'est un entre-soi, demander dans la rue qui est Florian Philippot ou François Asselineau, les gens ne savent pas qui c'est. Donc, en dehors de ça, il y a la possibilité de résister localement, de tenter des choses, de devenir quelqu'un. Vous pouvez devenir quelqu'un dans le monde associatif, dans le monde municipal, on l'évoquait avant que l'émission commence. Et les gens doivent investir ces espaces-là parce qu'on vous écoute différemment. Et qu'à un moment donné, peut-être qu'à 100 km de chez vous, vous n'aurez pas le droit de faire certaines choses. Mais autour de chez vous, vous pourrez le faire. Donc voilà, nous, localement, on a créé des associations. Par exemple, j'ai fondé une association parce qu'ils ont suspendu les soignants qui n'avaient plus de revenus, etc. Enfin, tout le monde connaît, je pense, ici, la situation. On a créé une association qui nous permettait d'accéder à Rungis de manière hebdomadaire et de récupérer des invendus et de distribuer de manière hebdomadaire des paniers d'un montant de plusieurs dizaines d'euros à des familles en difficulté. Et donc, c'est une forme d'action et de résistance, parce que la résistance a deux notions. Il y a la résistance active, où on fait quelque chose, les résistants font exploser des voies de chemin de fer, etc. Et il y a la résistance qui est de tenir comme une résistance dans un circuit électrique qui résiste à une chaleur. Et c'est une chose importante aussi, et ça génère des victoires. C'est-à-dire que l'État a voulu vacciner la population entière, il y a des gens qui ont refusé, qui ne se sont pas fait vacciner, et aujourd'hui, ils ont récupéré les droits qu'ils avaient avant. Donc ils ont, en quelque sorte, ils ont gagné ou ils n'ont pas perdu. Voilà. Et donc, c'est des petites victoires qui existent, qu'il faut voir, et que tant qu'on n'a pas perdu, tant qu'on n'est pas mort, le combat continue, et que c'est encore c'est pas une défaite. Voilà.
C'est vrai, ça reste aussi des victoires, même individuelles. C'est pas rien, quand même, une victoire individuelle.
C'est certain, et ce d'autant que, pris dans l'actualité quotidienne, nous jugeons sur le temps court. Mais sur le temps moyen, on a des victoires quand même assez éclatantes. Qui aujourd'hui retournerait comme ça, sur la base du volontariat, recevoir une injection ? Personne. Donc ça signifie bien que les lanceurs d'alerte, que les mouvements d'opinion, aussi modestes soient-ils et aussi invisibilisés, pour reprendre un terme très contemporain, soient-ils, ont produit leurs effets. Et c'est peut-être ce qui apparaîtra lorsqu'il s'agira de juger de cette période. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, j'ai toujours, c'est drôle parce que j'en parlais à ma compagne encore hier, je me suis toujours dit qu'un jour il faudrait écrire un livre qui s'appellerait « Être quelque part quelqu'un ». Être quelqu'un quelque part. Et je pense que le salut, enfin, ou l'ambition en fait de tout homme, c'est ça. C'est d'être quelqu'un quelque part. Et on vit dans une société qui détruit beaucoup les localismes, qui détruit ces petites communautés. Et donc, la possibilité d'être quelqu'un quelque part, ça peut être le boulanger, ça peut être le fils de l'instituteur, etc. Mais c'est dans cette identité-là, dans cette fidélité à la communauté à laquelle on appartient, qu'on trouve le sens de sa vie. Et donc, je pense qu'effectivement, non pas forcément le retour au localisme, mais de s'engager comme ça, dans un endroit en particulier, c'est aussi l'une des solutions.
Qu'est-ce que tu en penses, Philippe ?
Alors, c'est important la question que vous avez évoquée sur les modes d'action. Le problème de ne pas payer l'impôt, qui serait vraiment quelque chose de déterminant, le problème, c'est que c'est devenu quasiment impossible maintenant. Alors qu'en fait, historiquement, le consentement à l'impôt, c'est ce qui a donné naissance, on voit ça notamment en Angleterre, c'est ce qui a donné naissance au Parlement. Par rapport au roi, le Parlement, c'est arroger le droit de faire voter l'impôt de façon à ce que ce soit démocratique et accepté par la population. Bon, ça a été une conquête, en quelque sorte. Ça, maintenant, ça a disparu, parce que ne plus payer l'impôt, alors comme vous faisiez remarquer, l'impôt sur le revenu, maintenant qu'il est prélevé à la source, c'est plus possible.
Et puis les ATD aussi.
Et les autres impôts, c'est devenu impossible. Alors, il faut peut-être imaginer d'autres modes d'action. Il y en a un qui me revient à l'esprit, qui avait été pratiqué par les 68ards en Californie dans les années 70. À l'époque, on payait, il n'y avait pas l'Internet, évidemment, donc on payait ses factures d'électricité, notamment, par des chèques. On recevait une facture et on envoyait un chèque. Et ils avaient eu l'idée très, très amusante de que tout le monde paye ses factures en rajoutant un cent. Et donc, ça générait automatiquement un courrier de retour pour rembourser le cent trop perdu, mais ça coûtait extrêmement cher, parce qu'un cent, ça payait pas le courrier et le timbre. Et donc, ça a complètement engorgé le système. Et la compagnie électrique a dû dire d'arrêter ça, parce que voilà. Donc, il faut peut-être imaginer des modes d'action comme ça, où on joue sur l'engorgement. Alors, par exemple, pour ce que vous citez tout à l'heure sur les 200 000 Parisiens qui vont être obligés de se déclarer à la préfecture, et alors moi, comme il est près du Champ de Marche, je pense que ça risque de me tomber dessus. Je sais pas, demander à ce que tous les Parisiens, même l'Île-de-France, même tous les Français, demandent un dossier, quoi. Et un dossier sous forme papier, en disant je peux pas le faire sur Internet, je demande à recevoir le dossier sous forme papier, que tout le monde fasse des demandes, même pour ne pas le remplir. Mais juste histoire d'embourber le système. Au moment où ça ouvre, tout le monde fait des demandes pour avoir un dossier en papier. Voilà. Et on diffuse ça à des millions de Français. Voilà. Juste pour engorger le système. Donc c'est des choses comme ça. Ou un autre aspect, j'ai lu un article sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui va être. Il prévoit que les gens vont devoir attendre 4 à 5 heures pour passer les contrôles. Et ensuite, la cérémonie dure 3 heures, donc ils vont passer 7 heures debout. Enfin, ça va être la folie, quoi. Et j'ai dit, pour encore renforcer le truc, même si vous n'avez pas de billets, si vous avez un peu de temps à perdre, mais si vous n'avez pas de billets, allez-y quand même pour faire la queue. Et puis au premier contrôle, vous dites que vous avez oublié votre billet, vous donnez votre nom, juste histoire d'embourber le truc. Parce que si ça prend 4 heures, si en plus il y a des milliers de Parisiens qui en plus sans billet y vont, ça va encore plus engueuler le système. Voilà. Donc je pense qu'il faut imaginer des choses comme ça, et je pense qu'il faudrait se tourner vers les informaticiens qui, eux, connaissent la faiblesse des systèmes informatiques, pour leur dire où est-ce qu'il faudrait aller pour planter le système. Enfin, les différents systèmes qui existent, alors que ce soit les cartes comme ça, que ce soit d'autres systèmes ou des demandes de passeports, par exemple, on décide, lundi prochain, tout le monde demande un rendez-vous à des passeports, histoire de bloquer l'agenda pendant 2 ans, sans avoir du tout l'intention d'y aller. Enfin, mais pour que ça marche bien, c'est des idées que je lance comme ça, et pour que ça marche bien, je pense qu'il faut demander conseil à des informaticiens qui connaissent le système-là et qui savent comment on pourrait créer des engorgements et bloquer le système comme ça.
Ah oui, ça, ça emmerdera l'administration.
En tout cas, le truc pour les JO, cette histoire de 200... Ouais. C'est complètement effarant. Hein. 200 000 Parisiens, c'est les gens qui vont devoir prouver qu'ils sont innocents. Je veux dire, c'est un renversement complet, c'est une dictature. Parce que normalement, c'est à l'État ou la justice de prouver que vous êtes
coupable. Vous savez, il y a le quartier, Parc des Princes. Je pense même que je pourrais même pas aller à Radio Courtoisie travailler.
Non, mais voilà, tous les gens qui vont travailler ou tous les gens qui vont voir un commerçant qu'ils aiment bien, qui va se retrouver en zone, va falloir qu'ils fassent une demande pour aller voir leur fromager préféré. Mais est-ce qu'on imagine le truc? Donc il faut embourber le système complètement.
Qu'est-ce que vous en pensez, Martin?
Il faut pas parce que, et c'est une atteinte au droit, parce que c'est des personnes innocentes qui vont devoir faire la preuve de leur innocence. C'est un renversement complet. Normalement, c'est à l'État, à la justice, de dire si vous êtes coupable, ok.
C'est excellent.
Et donc, il faut embourber le système complètement. Il faut le figer complètement.
Non, je réagis juste à l'histoire de la cérémonie d'ouverture, parce que ça m'a fait penser au début du Covid, quand il y a eu des premiers événements un peu populaires dans des communes où il fallait avoir un pass ou un test, on avait monté des petites équipes, on était allé à un sorte, c'était pas une fête foraine, c'était un peu un équivalent, où il fallait rentrer avec un test positif ou un vaccin. Et donc on l'avait pas, mais on avait monté des groupes et on avait chacun des scénarios, donc on venait avec par binôme souvent, et en fait on bloquait l'entrée, on nous renvoyait vers, il y avait une tente pour faire des tests. On avait réussi à faire croire qu'il y avait plus de tests dans la tente, et c'était devenu une pagaille. Et on était plein à être rentré, parce que l'objectif c'était de savoir si on arriverait à rentrer, et on était plein à être rentré, donc sans tests, sans passe, sans vaccin, etc. Alors c'était un petit événement dans une municipalité de l'Ouest parisien, mais on était une dizaine, quoi. Donc ce que vous avez évoqué là, de bloquer l'accès dans une file d'attente et tout, c'est tout à fait possible, quoi. Vous mettez 10 minutes à chercher un passe que vous n'avez pas,
et ça
multiplie par 100, déjà, à 100, c'est pas beaucoup. Il faut juste se coordonner. La seule chose qui est importante dans les actions, là, vous avez évoqué les impôts et tout ça, ce qu'il faut faire attention, c'est pas envoyer aux gens des idées et puis ils vont se dire dans leur coin, je vais le faire. Parce qu'en fait, quand vous êtes seul à vous lancer dans une action comme ça, d'abord, vous savez pas l'impact que ça aura, et il y a des gens qui se mettent en danger pour rien. Et la priorité, quand même, des gens qui résistent.
Oui, enfin, ça,
Les mettre en danger. Ce sont des gens qui résistent. Voilà. Ça sert à rien qu'ils se retrouvent seuls au commissariat à pas savoir comment réagir, etc. Donc, nous, quand on menait des actions comme ça, militantes, on en a fait beaucoup. Des ouvertures de péage, des actions de banderolage, etc. Il y avait toujours un groupe qui préparait et qui expliquait aux gens ce qu'on allait faire et avec la conduite à
faire. Vous serez actif pendant ces JO ?
J'en sais rien. Je serai personnellement au Festival d'Avignon qui se termine juste avant, puisque justement ils ont changé un peu des. Et je n'y ai pas encore pensé. Voilà.
Cher Rémi, c'est une bonne idée,
oui. Alors, très bonne idée, mais pour être toujours un peu positif quand même. Puisqu'on s'interroge sur quel est l'impact réel en fait de notre dissidence ou de notre résistance. C'était ça la question de départ. Imaginez le niveau de fébrilité, le niveau d'angoisse au sommet de l'État pour imposer de telles mesures à l'occasion d'une compétition sportive. Gérald Darmanin a indiqué dans un entretien récent au Parisien que le premier risque qu'il identifiait pour ces Jeux Olympiques, ce n'était pas la menace terroriste, mais ce qu'il appelle la menace contestataire. Imaginez le niveau de fragilité, d'angoisse, d'incertitude qu'il faut avoir quand on se trouve au pouvoir pour mettre en place un tel dispositif de sécurité afin de faire en sorte que pendant les 3 ou 4 heures que durera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on ne soit pas humilié devant le monde entier. Si ça, ce n'est pas la preuve qu'on n'est pas quantité négligeable, que faut-il ?
Mais on sent aussi que ça bouillonne. On voit par exemple ce qui se passe là à Sciences Po, à la Sorbonne. Même si moi je suis pas très philosophiquement favorable à ce qu'ils font, mais bon, d'un autre côté, je les soutiens quand même parce que tant que ça peut emmerder l'État, donc je les soutiens. Mais justement, qu'est-ce que t'en penses, toi, Stéphanie, de ce type d'action
Ce qui s'est passé à la Sorbonne ?
Non, mais en général, les actions que propose Philippe, Martin...
J'aime bien cette résistance un peu fourbe. Je crois qu'il faut justement utiliser les outils du camp d'en face et être aussi fourbe qu'eux, contourner et engorger les systèmes, je suis pour. J'avoue que je ne vais pas le faire parce que je vais lâchement quitter Paris, il est hors de question que je présente un QR code et qu'effectivement, j'apporte la preuve de mon innocence de je ne sais quoi. Il est hors de question de ça.
Oui, mais regardez, il y a cette chose-là. Les gens, bon, peut-être qu'ils ne sont pas aussi au courant, mais il n'y a pas une nuée de gens qui se disent « Putain, quoi, je vais me donner un QR code pour rentrer chez moi ?»
Je pense qu'il y a des gens qui sont d'accord.
Non, non, moi, je pense
qu'il y a des gens qui sont aussi d'accord.
Je pense que la plupart des gens ne savent pas et n'ont pas réalisé. Et sont incapables de réaliser, et quand on va leur apprendre, ils vont tomber des nues. Et c'est ça, c'est très bien. C'est à ce moment-là qu'il faut agir et protester.
Sur ton entourage, les gens savent ?
Personne, non, personne.
Personne.
Non.
Bah, Paris,
il faut bien dire que ça ne concerne que Paris, hein. C'est un phénomène parisiano-parisien. Ouais.
Et jusqu'ici, ça concernait la circulation motorisée, c'est-à-dire les voitures. Bon, contrôler les voitures, bon, la plupart des Parisiens n'ont pas de voiture, donc ils s'en fichent un peu, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon. Mais là, ils demandent des piétons, des habitants, quoi, pour rentrer chez soi. Les gens n'ont pas encore réalisé. Hein. Quand ça va arriver, ça va faire un bins. Quoi.
Est-ce que le JO peut être une goutte d'eau ?
Il y a quelque chose de tragique, mais dans le bon sens du terme, avec la logique du progressisme. On évoquait ces 200 000 Parisiens concernés par la présentation d'un QR code. Qui sont ces 200 000 Parisiens, sociologiquement ? Plutôt des électeurs d'Emmanuel Macron.
Ah oui.
Parce que c'est les beaux quartiers.
Exactement.
CSP plus.
C'est centre Paris.
Il y a quelques minutes.
Bord de Seine.
Quoique, il y aura des banlieusards. Il y aura beaucoup de banlieusards qui travaillent au Triangle d'Or.
C'est vrai.
Et qui vont être emmerdés.
Bien sûr.
Mais effectivement, c'est plutôt les bords de Seine. C'est plutôt les beaux quartiers.
C'est l'ouest parisien aussi.
C'est 10 000 euros le mètre carré.
Et LR.
Minimum.
On évoquait la question de l'euthanasie il y a quelques minutes. Qui sont les candidats aujourd'hui à la légalisation de l'euthanasie ? On est plutôt sur du personne CSP+, d'un certain âge, qui sociologiquement se trouve être l'électorat macroniste, l'électorat progressiste. Qui sont les Français qui, lorsque c'était plus obligatoire, sont retournés faire leur cinquième, leur sixième...
Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'il y a une forme de suicide... du bloc de pouvoir qui est assez intéressant et qui pourrait avoir des répercussions politiques et y compris sur d'autres sujets. Une étude de Goldman Sachs, je parle sous le contrôle de Philippe Erlin, mais en mars 2023, expliquait que les premières victimes de l'intelligence artificielle, et c'est inédit, allaient être les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, alors que jusqu'ici, l'innovation technologique a plutôt frappé de plein fouet les classes laborieuses. Et donc ça va donner lieu à des rapports de force politiques nouveaux, parce que ceux que la modernité a plutôt servi jusqu'ici, vont se trouver aux prises avec ces effets délétères. Et donc on aura aux prises des surprises aussi peut-être politiques, et quid de ces 200 000 Parisiens, électeurs d'Emmanuel Macron, peut-être électeurs d'Anne Hidalgo, qui vont se retrouver interdits de rentrer chez eux parce qu'ils ont participé, je sais pas, à une manifestation des soulèvements de la Terre, par exemple.
Mais justement, tiens, Stéphanie, ces JO, ça peut être une goutte d'eau, ça peut créer une forme de grand ras-le-bol. Moi, je vois aujourd'hui les métros, alors, sont bondés comme jamais.
Ça va.
J'ai l'impression que la métro 2024 fonctionne moins bien qu'en l'an 2000. Mais vraiment, hein.
Ça va être l'été. Il faut savoir que l'été, la circulation est divisée par deux en volume. Et là, ils ont simplement fait en sorte qu'il y ait 15% de plus que le service normal. C'est-à-dire qu'on va baisser 35%.
Mais ça veut dire que les gens vont se battre dans les rues.
Ça va être la folie. Les quais vont être bondés. Enfin, ça va être la folie pendant.
Est-ce que Emmanuel Macron va être sifflé devant le monde entier ? Il l'a déjà été, mais déjà le monde entier est peut-être mieux informé sur le couple que nous avons à la tête de l'État que nous-mêmes, puisque c'est un peu comme un cocu qui est le dernier prévenu. Peut-être que le Français va se réveiller après l'étranger qui, à mon avis, peut-être a une presse qui se déchaîne un peu plus et qui dit un peu plus des choses un peu gênantes et délicates concernant et la Macronie et le couple qui est placé à la tête de l'État. Je ne sais pas ce qu'en pensent les voisins.
Est-ce que c'est ce qu'il faut attendre Mais est-ce que ce qu'il faut attendre ces Jeux Olympiques plutôt que ces Européennes, tiens. Parce que les Européennes, bon, ok, même si on a 5 élus, bon, ils parleront du Frexit, très bien. Mais est-ce que... parce que le Frexit, ça, c'est long terme. Hein. Est-ce que le court terme, c'est et l'objectif, c'est les Jeux Olympiques?
On a évoqué en début d'émission justement ce piège du court terme, qui est le piège des réseaux sociaux et qui nous fait qui nous enferme en fait dans une situation qu'on maîtrise pas, puisqu'on attend toujours un nouvel événement. Donc là, on parle hypothétiquement de certaines choses, on ne mesure pas très bien combien il y aura de personnes, ce que ça représentera dans les rues, etc. Donc non, je maintiens au contraire qu'il faut s'inscrire dans du temps long, profiter de certains événements pour mener des actions ponctuelles. Mais non, je continue de penser que les élections européennes arrivant avant les Jeux Olympiques, il est important que on arrive, les gens qui résistent à tout ça puissent avoir une voix pour laquelle voter et non
oui,
pas
mais,
de...
Oui, mais est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à ces Jeux Olympiques? Justement, les Frexiteurs, est-ce que voilà, c'est que, parce que j'ai l'impression que ces élections de l'Union européenne, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'alpha et l'oméga de quelque chose.
C'est pas que c'est l'alpha et l'oméga, c'est que les élections qui sont peu suivies et peu fréquentées sont utiles aux petits partis. En fait, c'est juste, il faut voir ce qu'elle intérêt apporte une élection. Cette élection a la particularité par rapport aux autres d'être à un tour et à la proportionnelle directe. Donc, elle offre quand même un avantage aux petites listes, puisque déjà, à 3%, elle se rembourse. Je vous donne un exemple. Je vous ai évoqué en début d'émission que j'avais fait deux candidatures. J'ai fait une candidature au départemental et aux législatives. Au départemental, avec notre liste citoyenne, on était proche des 5%. Aux législatives, on a fait 1,quelques%. Pourquoi ? Parce qu'au départemental, il y a très peu d'enjeux. Donc, il y avait très peu de listes. On devait être 4 listes en tout, tandis qu'aux législatives, comme les législatives permettent le financement des partis politiques, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui candidatent. Et donc, il y a des endroits où le public peut penser qu'un parti a perdu, mais il a gagné. Je donne l'exemple, comme ça, c'est un exemple proche de ce dont on parle là. Le mouvement des Patriotes et celui de Debout la France se sont alliés aux législatives, parce qu'ils se sont partagés le territoire pour pas justement avoir des listes qui étaient trop semblables, puisque les deux candidats s'étaient fait remarquer ces dernières années sur leur position vis-à-vis du Covid. Donc, ils ont fait des scores qui ne leur ont pas permis d'accéder à l'hémicycle, à l'exception de Nicolas Dupont-Aignan. Simplement, ils ont quand même rempli le contrat qui était de faire plus d'1% dans plus de 50 circonscriptions. Ils ont aujourd'hui des financements publics. Donc, les Patriotes, si moi, de ce que j'ai perçu, c'est qu'en fait, ils font peu d'appels aux dons en ce moment, parce qu'ils touchent 200 000 euros par an des financements publics. Donc, c'est une victoire pour les gens des Patriotes. Et au-delà de leur tête de liste, ils sont quand même portés par des militants que vous côtoyez, qu'on peut côtoyer dans les manifestations, qui sont des gens sincères. Et à ce point de vue-là, ils ont gagné quelque chose. Et donc, chaque petite victoire est quand même une réussite et donne envie de continuer sur la suite. Donc, je pense au contraire que cet espace des élections, pour les petits partis, a un intérêt, parce que tout le monde sait très bien que ni Florian Philippot ni François Asselineau ne seront présidents de la République dans 5 ans. Enfin, s'il y a des gens qui le croient, ils ont rien compris depuis des années. Mais par contre, il y a des failles dans ce système qui est obligé de donner des mini-gages. Donc, ils font tout pour pas que vous participiez. Quand vous faites des listes citoyennes, tout est fait pour que ça soit compliqué. Tout est fait pour les partis, mais vous pouvez quand même participer. Et quand vous y participez, vous avez quand même droit aux tribunes. Les mairies locales ne peuvent pas vous refuser les salles pour faire vos réunions publiques, etc. Donc, nous, on a fait localement, par exemple, pendant la campagne législative, des réunions publiques avec Vincent Pavant dans une salle municipale, sans que la personne n'ait eu à nous dire quoi que ce soit sur qui étaient nos invités, qu'est-ce qu'on y dirait, etc. Pareil, tous les événements qu'on organisait, on n'avait pas cette fois-ci à quémander auprès de la préfecture une autorisation ou quoi que ce soit. Donc il y a quand même, dans ces espaces politiques restreints, des espaces d'action qu'il faut utiliser. Il faut juste avoir conscience de pourquoi on le fait. Donc si les gens font des listes souverainistes en pensant demain que François Asselineau et Florian Philippot feront 20%, ils sont à côté de la plaque, c'est une évidence. Par contre, de dire que s'ils s'allient, ils feront peut-être 3%, donc au moins... ils respecteront un petit peu les finances des Français, puisque c'est nous qui payons ces partis, soit par nos dons, soit par l'impôt. Donc, eux qui se veulent être des bons gestionnaires du pays, bah, soyez des bons gestionnaires de vos caisses. Et s'ils passent au-dessus de ces 3% et qu'ils arrivent à 5%, ils auront 5 candidats, 5 élus, et on verra ce qu'ils valent en dehors de leur chaîne YouTube, en plus. Donc,
qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il faut participer à l'élection, parce qu'à nouveau, on nous reprocherait de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir tenté le coup. Est-ce que tant d'énergie mérite d'être déployée pour faire 3%, y compris avec les implications que vous avez rappelées et sur lesquelles, évidemment, je suis d'accord? Ça, j'en doute.
Dans le financement
très, plateau, très honnête.
Regardez l'UPR. Quand ils étaient seuls sur la liste Frexit, donc pour 2017, etc., ils avaient beaucoup de soutien financier des adhérents, etc. Donc c'est comme ça que UPR TV s'est créé. Donc ils ont eu une qualité de vidéo, d'image, donc ce sont des petites choses, mais qui apportent du sérieux. C'est comme ici. On est ici sur un plateau où maintenant il y a des écrans, il y a un montage en direct, etc., qui donne un certain sérieux. C'est quand même plus facile de partager finalement cette émission que si on était là avec un smartphone parce qu'on n'a pas un rond et que à la fin quand même le nerf de la guerre c'est l'argent, comme disait l'autre là dans les tontons flingueurs, touche pas au Grisby, je vous dirai pas la suite. Et donc s'il y a un espace à prendre là, il faut le saisir. C'est l'énergie, parce que un député européen c'est 7 000 € par mois d'indemnité plus 20 000 et quelques euros par mois pour ces, tout ça c'est des centaines voire des millions d'euros qui d'un seul coup seraient mis au service de la résistance ou en tout cas de gens qui contestent, et c'est pas à négliger. Voilà.
Alors il y a quand même une condition pour que ce scénario-là soit valide, me semble-t-il, c'est de miser sur des gens qui eux-mêmes servent véritablement la cause qu'ils prétendent servir.
Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est là où on peut avoir, je pense, des doutes. Et ça nous renvoie à la discussion précédente. Et vous avez fait, je crois, une manifestation devant le QG de François Asselineau. Est-ce que quand on s'engage aujourd'hui aux élections européennes dans les partis dits du Frexit, enfin pro-Frexit, est-ce qu'on fait avancer une cause ou est-ce qu'on alimente une logique boutiquière? La réponse n'est pas si simple que ça. Et vous l'avez démontré vous-même, puisque vous avez fait cette manifestation devant le QG de François Asselineau. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus de réponse à cette question. Il y a un moment où j'y ai cru. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus de réponse à cette question. Et je n'exclus pas que ceux qui donnent du temps, que ceux qui donnent de l'énergie, de la bonne volonté, sincèrement, avec authenticité, en fait, soit comme dupé par des chapeaux à plumes, enfin des qui au fond sont là pour alimenter leur petite boutique et puis ça fait une belle chaîne YouTube, etc. Et certes ça fait avancer l'information, ça permet de lancer l'alerte sur beaucoup de sujets, mais c'est pas une alternative politique.
C'est dur ce qu'il dit. Oui et non, c'est que d'abord on est en situation dégradée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est pas nous qui décidons des tenants et des aboutissants. Et donc on a évoqué l'action et à un moment donné, on fait de l'action avec le réel. L'action c'est ça. L'action c'est la réaction, ça elle peut être irréelle, c'est-à-dire qu'on peut tout dire, tout penser, etc., tout écrire sur Twitter. Elle est pas matérielle, l'action devient matérielle. Donc dans une situation dégradée, je sais pas, c'est comme si je prenais une comparaison avec des soldats, ils sont sur un champ de bataille et puis ils ont plus tous les éléments qu'ils avaient au départ. Mais ils sont sur le champ de bataille, ils sont obligés de prendre une décision. Donc, on peut regretter les personnalités de François Asselineau, de Florian Philippot, dire qu'il y aurait peut-être mieux, etc. Il s'avère que c'est eux qui sont là. Et nous, l'expérience qu'on a en tant que liste citoyenne, c'est qu'elles présentent leurs limites aussi. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité d'action qui est forte, mais à un moment donné, pour centraliser une action sur un point précis, lui donner une force et un impact, elles n'ont pas cette force-là. Donc, c'est pour ça qu'on joue sur ce terrain-là. Et j'insiste quand même, parce qu'il faut quand même un peu ne pas tout voir par la défaite ou le négatif. François Asselineau est un candidat petit, c'est-à-dire qu'il a toujours fait des petits scores politiques, mais il a fait changer, selon moi, ça c'est mon analyse, il a fait changer le discours sur le Frexit dans le débat public et dans la sphère politique élargie. Parce qu'il a une existence sur Internet et que des partis politiques comme celui de Mélenchon s'appropriaient énormément des sujets montants sur Internet et que le débat sur le Frexit, même dans la vie de tous les jours, a évolué ces 10 dernières années et je pense que les analyses de François Asselineau en sont pour beaucoup. Et donc il n'a pas marqué des points là où il pensait peut-être être président de la République en 2017, mais en tout cas il a marqué des points dans le débat public. Donc il faut leur reconnaître ça et nous en tant que citoyens on se saisit de ce qui est présent, voilà. On fait moi ce que j'appelle l'adaptation à son environnement. Je ne choisis pas mon environnement. Je voudrais qu'il y ait des gens plus intelligents, là je peux le dire quand même, plus intelligents politiquement que François Asselineau et Florian Philippot sur cette question-là d'alliance. C'est absurde les points qu'ils disent. Mais c'est cette situation qui est là, et je sais que les citoyens ont une intelligence collective qui peuvent porter à contribution de ces partis. À eux de l'entendre, et s'ils ne l'entendent pas, les citoyens en tireront des conséquences et auront gagné en expérience politique, parce que vous en parliez souvent, vous avez un parcours politique, donc vous avez une expérience de ce monde-là. Les citoyens ne l'ont pas tous, donc il y a une forme de naïveté, et qui est une naïveté, c'est pas péjoratif de ma bouche, hein, parce qu'elle est héroïque, cette naïveté. C'est cette naïveté-là aussi qui fait que des gens refusent des choses en se mettant en danger. Et donc, ils vont gagner en compétences. Et je vous dis, moi, je vois la manière dont on a porté cette action. Il y a eu des vraies réflexions pertinentes qui ont été portées par des citoyens, notamment sur le fait que François Asselineau et Florian Philippot se mettent eux-mêmes dans le piège de l'élection en se divisant. Puisque le piège de l'élection, c'est justement de faire que quand deux candidats présentent la même chose, ils sont concurrents, puisqu'ils se partagent le même électorat. Et donc, eux, qui pourtant invitent des gens comme Étienne Chouard, des choses comme ça, n'ont pas cette vision-là. Et les citoyens l'ont.
Quelles seraient les conséquences? Vous avez parlé de conséquences. Les gens tireront des conséquences.
Ben, les gens, petit à petit, vont comprendre que François Asselineau et Florian Philippot, c'est super pour faire une vidéo YouTube. Mais donc, à ce compte-là, ils sont plus journalistes et analystes comme politiques. Et donc, ça, quand les gens ne sont pas là, quand les personnalités ne sont pas là, elles ne sont pas là. On peut rien faire d'autre. Donc, des personnalités émergeront. Ça veut dire que ça n'est pas le temps. Nous, on pense que c'est possible que ça se fasse maintenant, qu'il y ait un intérêt à ce que se fasse maintenant. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les militants de l'UPR, parce qu'ils sont assez, pas virulents, mais assez défenseurs sur et c'est leur rôle de militant sur Asselineau. Je tiens à leur renvoyer le fait qu'eux sont très actifs et très, ils reviennent à la charge souvent quand François Asselineau n'est pas invité dans les médias, et à juste titre, hein. Donc, voilà, qu'ils ne nous reprochent pas notre volonté de revenir à la charge régulièrement sur cette question-là, parce que c'est la seule question des souverainistes. Voilà. Toutes leurs positions, on les connaît, et elles sont valables. Et maintenant, la seule chose, c'est êtes-vous capable de faire front commun? Si vous n'êtes pas capable, c'est que vous n'êtes pas les hommes de la situation.
Cher Rémi.
Alors, vous parlez de tirer les conséquences, et je suis absolument d'accord avec votre vision des choses. Peut-être qu'effectivement, on a cette élection européenne. La précédente était il y a 4 ans, il y a 4-5 ans. Il faut peut-être jouer encore le jeu, faire le pari d'y croire. Mais une fois l'élection passée, et nous savons, vous comme moi, qu'a priori, ni François Asselineau, ni Florent Philippot ne voudront faire cause commune l'un avec l'autre, à mon avis, il faudra, là, pour le coup, en tirer les conséquences.
C'est ce qu'il veut dire.
Comment ?
C'est ce qu'il veut dire.
Oui, mais François Asselineau, par exemple, a déjà dit très clairement qu'il refusait tout projet d'alliance. Mmh. Il a ses arguments, qui, me semble-t-il, sont en grande partie contestables, il l'a dit, clairement, et a priori, il ne reviendra pas dessus. Et donc, je pense que c'est...
Philippot aussi, ou pas ? Florent Philippot ?
Non.
Alors, Florent Philippot, il a une attitude qui est différente. C'est-à-dire que dans le discours, il est beaucoup plus allant sur l'union, mais dans les actes, parfois, diffèrent un peu, quoi. Donc, il y a un côté tous unis derrière moi. Donc, c'est pour ça aussi que ça ne fonctionne pas. Donc, non. D'une certaine façon, ils ont une logique qui est à peu près similaire.
Pourquoi ils n'ont pas le même discours ?
Philippot est quelqu'un de plus ouvert. Bon, moi, pour avoir fait pas mal de manifestations à l'époque contre le pass, j'ai pu constater concrètement qu'il invitait tout le monde, il invitait des responsables politiques qui n'étaient pas de son parti, y compris à prendre la parole à la fin de la manifestation qui était organisée et payée par les patriotes. C'est un geste... qui est quand même assez rare dans le monde politique français. Hein. En politique, il y a plutôt de l'épuration à peu près tous les partis. Donc lui, il a ouvert, et c'est quelque chose qu'on doit lui reconnaître, et y compris par rapport à une liste Frexit, il a dit qu'il était ouvert aussi à l'Union. Asselineau, il refuse même tout débat. Hein. Il refuse même de débattre avec Philippot.
Mais je trouve que Asselineau, parce qu'il communique moins bien que...
C'est des faits, c'est des déclarations.
Alors précise après Stéphanie.
Juste pour compléter effectivement ce que dit Philippe Erlin, c'est un tort d'avoir laissé penser que je mettais les deux sur le même plan. Effectivement, on a quand même des velléités plus importantes du côté de Florent Philippot, qui a démontré lors des manifestations qu'il était capable d'accueillir des gens qui ne pensaient pas comme lui ou qui n'appartenaient pas spécialement aux patriotes, plutôt que du côté d'Asselineau. Mais la conséquence, d'une certaine façon, est la même. C'est-à-dire que pour se marier, il faut être deux à le vouloir. Donc dès lors qu'il y en a un qui refuse, que cela vienne de l'UPR ou des patriotes, le résultat est le même. Il n'y a pas cette union-là, et dès lors que cette union est avortée, je crois qu'il faut passer à autre chose déjà.
Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie ?
J'en profite pour placer que la liste France Libre de Lalanne a fait du pied à Florian Philippot pour s'associer. Je ne sais pas ce que ça a donné.
Il est au deux.
D'accord.
Au deux.
Voilà, donc
on le sait.
Ça c'est dit.
Voilà.
Okay, ça c'est dit.
Et on salue Francis,
nous regarde. Oui, ce sont des tenanciers de boutique, je suis d'accord, et a priori, ne sont-ils pas programmés pour incarner le pouvoir Oui, j'en doute. Effectivement, il ne maîtrise pas l'art de la guerre électorale. Et ça, c'est regrettable. Je le regrette profondément, n'est-ce pas? Et le seul avantage, ils sont de très bons diagnostiqueurs. Donc, ils ont l'avantage d'exister et d'avoir des chaînes YouTube qui marchent bien et qui font effectivement des analyses très pertinentes. Et donc ça permet au moins de faire avancer. C'est un point qui me paraît important. Dans la tête de, je ne sais pas si vous parlez du Frexit autour de vous, mais dans la tête de beaucoup de gens qui sont nourris aux médias mainstream, le Frexit, c'est quelque chose. Donc c'est la sortie de la France de l'Union européenne, mais pour les gens, ça sent le rance et le repli sur soi. Parce que ces gens ne voient pas le danger que représente l'Union européenne, donc le transfert de souveraineté, de notre santé, de nos entreprises, de tous les pouvoirs locaux, tout est en train d'être démantelé. Et ça permet au moins de c'est comme une fenêtre d'Overton, ça permet au moins de commencer à diffuser et de rendre acceptable cette idée que l'on pourrait sortir de l'Europe sans être de vilains petits Gaulois voulant se replier dans leurs frontières comme de méchants xénophobes. C'est simplement que l'Union européenne n'est pas un projet bienveillant. Et d'ailleurs, l'Union européenne, quand on se renseigne bien, Dixit de Villiers il n'y a pas longtemps, ça n'a pas été un projet de démocrates, mais apparemment il y a quelques odeurs un peu fascisantes derrière ce projet, si on analyse bien en profondeur ses racines.
Mais sans vouloir être avocat ni de l'un ni de l'autre, est-ce que ces élections européennes, même divisées, ce ne serait pas une sorte de primaire avant 2027?
Non, mais...
Donc, oui,
que... Alors là, pour le coup, je rejoins ce qu'a dit Martin.
Non.
Ce qui, à mon avis, là, c'est du doux rêve. Hein. Parce que quels que soient les talents des uns et des autres, et les deux n'en manquent pas, il y a un écosystème politico-médiatique qui les défavorise puisqu'il les exclut du débat face à la majorité des Français sur les médias mainstream. Donc s'imaginer que ça puisse aller au-delà de 3-4%, peut-être 5%, prenons-nous à rêver, c'est pas réaliste, quoi.
Mais c'est surtout, alors, par rapport à ce qu'on dit là, nous, dans notre démarche, on essaie de proposer cette médiation citoyenne, parce qu'aussi, ces partis, quand même, vivent grâce à leurs adhérents et grâce à leurs sympathisants. Et c'est important de le noter, parce que des partis comme Renaissance n'ont pas d'adhérents. Enfin, il y a des gens qui... Mais quand ils organisent des meetings, il y a très peu de monde. Enfin, ce sont pas... Et donc, nous, c'est ce point-là sur lequel on insiste et on s'adresse aussi donc à leurs adhérents et à leurs militants. Et par ailleurs, on ne les met pas dos à dos. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des personnalités qui se complètent. C'est-à-dire que François Asselineau a cette posture un peu universitaire, très complète. Moi, je peux même le dire, hein, personnellement, je préfère regarder les analyses de François Asselineau qui sont plus complètes, dont on maîtrise mieux le sujet une fois qu'on a regardé son travail, de Florian Philippot qui cherche plus à être dans l'action, dans la dynamique, peut-être un peu même dans la communication. Il a des analyses pertinentes aussi. Hein. Et donc, en fait, ces deux personnes se complètent. Et donc, pour nous, c'est ça leur force. Enfin, voilà, parce que là, on les critique beaucoup et c'est aussi facile de notre place de critiquer. On n'est pas exposé aux pressions qu'ils subissent, au parcours qui est le leur et tout ça. Donc je veux pas donner l'impression qu'on sait mieux qu'eux ce qu'est la politique.
Bien sûr.
Voilà, ce que je veux leur dire, c'est que on n'est pas non plus des abrutis. Et de temps en temps, j'emploie ce mot parce que de temps en temps, on est un peu traité comme ça parce que le mot liste citoyenne ou citoyen sonne comme abruti. Il y a des choses qui ont changé depuis la crise Covid. Et il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne s'intéressaient pas, qui n'avaient pas fait les gilets jaunes, etc., qui sont rentrés dans ce questionnement de notre société avec la crise Covid. Et ce sont des gens compétents, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont monté des écoles démocratiques, ce sont des gens qui organisent des événements qui sont mieux organisés que certains partis politiques, avec des invités, avec des conférences qui réunissent des centaines de personnes. Je peux peut-être le dire là. Il y a la 100e du CSI, la 150e du CSI, Conseil scientifique indépendant, qui aura lieu à Saintes la semaine prochaine. C'est un événement scientifique uniquement financé par des citoyens, organisé, etc., retransmis en direct, tout ça avec des citoyens. Aucun parti politique, aucun... Et donc, il y a cette nouvelle donne, pour moi, et c'est pour ça aussi que je mobilise sur cette chose-là, parce que je le vois, moi, dans mon quotidien de citoyen engagé, les choses ont changé depuis la crise Covid, sur l'engagement des citoyens, et leur manière de percevoir les choses, de les comprendre, de comprendre que, bah, effectivement, il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais qu'on peut prendre le risque de suivre un candidat, même si il a l'air plutôt de défendre une boutique que de nous défendre, qu'il y a des choses qui nous dépassent, et les citoyens ont conscience de tout ça. Et vraiment, là, et donc là, pour le coup, je lance quand même un appel appel à François Asselineau et aux gens de son bureau politique. On voudrait vous rencontrer, qu'on discute. On cherche pas à mettre les gens dos au mur, etc. Qu'on discute, qu'on vous réexplique sereinement ce qu'on défend, les limites qu'on voit à votre démarche, qui sont d'ailleurs selon nous à l'encontre de leur charte. Parce que François Asselineau renvoie beaucoup Florian Philippot à sa connotation d'extrême droite. Or, la charte de l'UPR prévoit qu'ils font fi du clivage gauche-droite. Donc, ça veut dire qu'on arrête de catégoriser les gens de la même façon que le système les catégorise. Et donc, c'est toutes ces choses qu'on veut aborder sereinement. Et si un accord n'est pas trouvé, on communiquera aussi sur tout ce qu'on aura mené, là un peu plus publiquement, et puis des choses qu'on essaie de faire pour l'instant un peu plus discrètement, parce qu'on a une démarche un peu diplomate, hein, encore une fois, on parle poliment aux gens, on n'est pas partisans. Mais voilà, ne sous-estimez pas, pour les forces politiques, ne sous-estimez pas la force et le courage des citoyens, et la déception qu'ils auraient à avoir deux listes Frexit.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Non, il y a un aspect, moi, qui m'interpelle aussi, et plutôt là, pour être positif. N'oublions pas qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Et d'une certaine façon, si le discours que nous portons, rencontrait 90% des suffrages, avait droit de cité matin, midi et soir sur les médias de grand chemin, il faudrait peut-être s'interroger aussi sur le caractère authentique de la dissidence qu'on prétend porter, ce qui ne veut pas dire que ce que nous faisons est vain, bien au contraire. Et là, pour le coup, j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux que M. Philippot avait organisé une manifestation ce week-end, qui avait été reprise dans des médias, il me semble, en Inde, et on a cette espèce de réorganisation du monde qui est en train de se faire. Et si les médias français refusent de voir que tout le monde n'est pas d'accord avec le président Macron, eh bien, en Russie, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, on le sait. Et pour l'avenir du monde et pour l'avenir de la France, c'est important.
Mais toi, tu as dit que voilà, l'élection, tu n'y croyais pas. Donc, je pense que tu ne crois pas ni dans l'union ni dans ce qui se passe.
Non, mais il n'y aura pas d'union des souverainistes. Pour moi, on le sait déjà. En fait, puisque les deux ont déjà répondu à cette question, je pense que Florent Philippot y était prêt. François Asselineau le refuse, il le refuse depuis des années, il ne reviendra pas sur sa décision. J'anticipe simplement, moi, un petit peu la conclusion.
Il y a un biais psychologique ce qu'a évoqué un de nos camarades du groupe qui s'appelle Pascal, qui est le biais psychologique. Ils se sont tellement engagés, notamment François Asselineau, dans cette posture qu'on peut supposer, comme la comparaison avec l'expérience de 1000 grammes, le gars a envoyé tellement de volts qu'à un moment donné, il ne peut plus s'arrêter, puisque ça voudrait dire que les volts qu'il a envoyés précédemment. Donc c'est sûr qu'il y a ce biais psychologique chez les personnalités. Mais bon, s'ils prétendent à un nouveau système politique, il faut sortir de cette personnalisation trop forte.
La personnalisation, c'est le gaullisme, c'est ça le gaullisme. C'est pas.
Oui et non, le gaullisme c'est construit sur le CNR. Il y avait quand même. On parle beaucoup.
Oui, mais c'est construit sur le général de Gaulle.
D'accord. Non, mais nous on n'est pas contre. Justement, ce qui a été évoqué, c'est Jean-Marc Trane qui en parle bien. C'est dans notre collectif, c'est que le gaullisme était représenté par cette croix de Lorraine, ou si vous voulez même la croix du Christ, qui a une verticalité et une horizontalité. Et la comparaison qu'on donnait, c'est que la verticalité, ce sont les partis, et l'horizontalité, ce sont tous ces mouvements citoyens. Tant qu'il n'y a pas de verticalité sur laquelle on peut s'appuyer, les mouvements citoyens vont rester par terre. Voilà. Une barre par terre à l'horizontale. Donc on a besoin de ces partis. Il ne faut pas chercher toujours à opposer les choses, mais plutôt chercher comment les choses se complètent. On ne demande pas aux gens entre choisir entre boire ou manger. Ils font les deux dans la journée. Donc c'est pareil, il y a des choses qui se complètent. On essaye de le faire comprendre à ces politiques. Pour l'instant, ils ne le comprennent pas.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas les circonstances qui vont créer les hommes et femmes politiques ? Est-ce que en fait, on n'est pas en train de chercher l'union de deux personnes qui peut-être sont des has-beens ? Il faut se poser la question. Je le dis un peu de façon triviale, mais voilà.
J'y répondrai pas comme ça directement. Il me semble qu'il y a quand même un impensé dans le camp souverainiste qui est justement
la question institutionnelle
avec une forme de fétichisme autour des institutions de la Ve République qui me semble être aujourd'hui complètement contre-productive. Je crois que le camp souverainiste qui se réfère à juste titre au général de Gaulle, et comment ne pas garder de mémoire à chaque fois inspirée et admirative de ce personnage historique, mais doit accepter de passer aussi à autre chose, y compris sur le plan institutionnel. Et je pense, puisque vous parliez tout à l'heure de l'image un peu poussiéreuse, que parfois on peut véhiculer à l'égard de la société dans son ensemble, je pense que ça permettra peut-être d'éviter cet écueil-là. Et je crois aussi que l'un des plus grands maux de notre pays, c'est sa centralisation, c'est le jacobinisme républicain, et que tant qu'on aura les institutions de la Ve République, Paris continuera d'écraser la France et les Français continueront de souffrir sous ce
point-là. Je veux écouter là, sur ce point-là, justement. Qu'est-ce que tu en penses?
Il semblerait que la Ve République soit en début de putréfaction. Et une République, c'est quand même un système dans lequel on transfère tous ses pouvoirs, on élit des représentants et qui ensuite, il n'y a pas de garde-fou. Donc ces représentants, on leur donne un pouvoir immense sur nos vies. Et on voit bien que nous sommes de plus en plus trahis et de plus en plus violemment. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller vers une véritable démos kratos, une démocratie à la Étienne Chouard? Mais ça demande de rééduquer politiquement les citoyens, donc de mettre de l'éducation politique dès le CP.
Le terme de rééducation est un peu dangereux.
Je vais très très loin. Oui, voilà, c'est un peu dangereux, si... mais je le dis de manière saine.
Oui, non, mais bien sûr, oui, mais...
Institutions civiques, enfin, simplement dire... tu reprends ta souveraineté.
Mais les gens
face à l'autorité, il faut savoir dire non. Moi, j'ai un fils et je lui dis, il avait 5 ans quand il y avait cette crise Covid et qu'on était quand même un petit peu inquiets. Et je pense, ce sont des éponges les enfants. On lui a expliqué qu'il y avait des règles à l'école et qu'il y avait des règles qu'on trouvait justes et qu'il fallait les respecter, mais que quand il y avait des règles qu'on trouvait injustes, il était de notre devoir de ne pas les respecter. C'est aussi simple que ça, c'est un jeu d'enfant, mais je crois qu'il est nécessaire de le dire.
Alors évidemment, c'est pas des has-been, je suis là pour faire vivre le débat, là, tous les gens là...
Ouais,
t'as dit que c'est un has-been.
Il a reçu des SMS, là.
Non, pas des SMS, genre les commentaires, ah, Asselineau n'est pas un has-been, Philippe... Non, ce ne sont pas des has-been.
Ils s'engueulent.
Je dis, évidemment, on fait vivre le débat, parce que voilà, il faut faire parler les gens. Tiens, qu'est-ce que t'en... Oui, c'est pas des has-been.
Les deux.
Les gens, vraiment, tout de suite, premier degré, quoi.
Il y a les femmes qui arrivent.
Les deux ont mené un combat de longue haleine, un combat difficile, sans qu'aucun cadeau ne leur soit accordé par le système. Mm. Et ça, on ne peut que le reconnaître. Je pense que c'est à peu près indiscutable. Les solutions d'un jour ne sont pas forcément les solutions de l'autre. Et je voulais vous dire quelque chose, mais je l'ai oublié.
Philippe a des choses à dire.
Oui, moi je dirais qu'il faut tempérer la Ve République. C'est vrai qu'elle est trop verticale, trop jacobine. Mmh. Mmh. Pas en faisant une Sixième République, parce que ça, c'est se lancer dans un projet long et incompréhensible et qui n'aboutira jamais. Il faut que la Ve République soit tempérée par le référendum d'initiative citoyenne. La possibilité pour le peuple français de faire des référendums et aussi faire en sorte que le président de la République utilise plus souvent le référendum pour régler des problèmes.
Des voilà. Garde-fous.
Et ça me semble important. Et je crois, malheureusement, que c'est une idée qui a été un peu oubliée et qui pourrait être portée par les souverainistes. D'ailleurs, je signale que chez Philippot, qui s'est allié à Via avec Jean-Frédéric Poisson, lui, il est frexiteur, mais quand même pas à 100%. Et donc, il a demandé et obtenu, et je pense qu'il a raison, que le Frexit soit approuvé par le référendum, qui est un débat et que ce soit les Français qui votent le Frexit et non pas le président élu ou une assemblée ou le Congrès. Et il a parfaitement raison, et je crois qu'il a parfaitement... C'est aussi mon avis. Moi, je ne suis pas frexiteur, mais je considère que de toute façon... Je m'oppose à un Frexit qui sera imposé par le président de la République ou par le Congrès.
Mais sauf si vous l'avez élu pour ça.
Non, même ça. Il faut que ce soit un débat. Il faut que ce soit un débat et que ce soit le peuple français, parce que ça voudrait dire, ça remettra en cause Maastricht, qui a été approuvé par les Français. Bon, même si on n'est pas d'accord, même si c'était à 50%.
Enfin, il a pas tellement été approuvé.
Ça a été approuvé.
On n'a pas mis les comptes des votes blancs.
D'accord.
Mais Paul-Marie Couteau m'a dit que si on avait mis le compte des votes blancs, le nom passait.
Oui, d'accord, mais c'est les votes exprimés qui comptent. Hein, et c'est la Constitution française. Donc moi, je dis, et je pense... Alors, c'est un conseil que je lance aux souverainistes, aux deux souverainistes. C'est un conseil. Ils mettent Frexit. Ils devraient rajouter référendum d'initiative citoyenne. Parce que si c'est quitter l'Europe
pour avoir un super chef qu'a la science infuse en France,
c'est pas
on n'est pas gagnant. Et moi, je dis non.
Il a...
Alors, quitter l'Europe pour avoir plus de démocratie grâce à un RIC en France, là, je dis OK. Et là, je dis que c'est un projet intéressant. Donc, je suggère à Philippot et à Sino de mettre le RIC dans leur slogan et sur leur bulletin de vote.
Voilà. Vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je voudrais juste de pas communiquer l'idée que tout se réduit à des élections et à des votes. En fait, c'est aussi ça un peu la faiblesse de notre époque, c'est qu'on a réussi à intégrer dans la tête des gens que le pouvoir, c'est au moment où on vote. Or, c'est faux. En fait, le pouvoir, c'est si vous représentez quelque chose localement,
si
vous avez du pouvoir.
Si, il y a la
si vous êtes à la tête d'un syndicat de chasseurs, mais vous parlez de politique, sauf que les gens, par exemple, ne sont plus syndiqués. N'ont plus d'engagement. Oui, mais c'est important.
Non, mais on parle politique.
Vous parlez d'élection. Le RIC, c'est une forme de vote. On peut lui mettre une critique, c'est-à-dire de quelle manière on communique sur un sujet. Donc peut-être qu'on peut vous biaiser l'information et que vous allez en fait vous tromper dans votre vote.
Le RIC, c'est le peuple français qui décide de se saisir d'une question.
J'ai compris, mais si vous ne maîtrisez pas les médias, on peut, vous avez bien vu qu'on peut diriger la population vers sur un sujet. Je veux pas centraliser le sujet sur le RIC. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir politique ne se réduit pas à voter, que ce soit une élection ou un RIC. C'est des espaces qu'il faut saisir. Il y en a une multiplicité. Et donc, c'est important d'avoir cette vision-là. Et c'est cette vision-là qu'on a aussi dans les actions qu'on mène. Donc, on n'est pas réduit à penser notre seul espace maintenant, c'est l'élection européenne. C'est un événement qui arrive sur lequel on a un espace et qu'il faut saisir.
On discute depuis une heure et demie de l'état de cette résistance, de cette dissidence, et on s'interroge sur l'avenir au fond. Le fait de vivre une période difficile pour la France n'a rien d'inédit. La France a connu des moments beaucoup plus difficiles que celui que nous traversons, avec des périls pour la vie des gens, des épidémies, des guerres, un territoire menacé, etc. Ce qui est inédit dans le moment que nous traversons, c'est l'incapacité et la difficulté qu'on a chacun à se projeter dans l'avenir proche. Pas parce qu'on est plus idiot que naguère, mais parce que le monde se défait sous nos pieds, le monde est devenu fondamentalement instable, parce que le monde, en fait, il est guidé par l'innovation technologique, et que l'innovation technologique, son propre, c'est d'être en perpétuelle évolution, et donc on ne saura jamais de quoi demain sera fait. Est-ce que je vais devoir partir pour la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'on va me retirer la garde de mes enfants si je refuse qu'ils deviennent transgenres? Est-ce que on pourra m'euthanasier dès lors que je n'aurai plus d'utilité économique? Ça, on n'a pas vraiment de réponse sur les années qui viennent, et ça explique aussi la difficulté, je crois, qu'on a tous à se projeter dans l'avenir, et donc à construire une force en positif sur ce qu'on veut. Je le dis pas à nouveau pour nous rassurer à bon compte, mais pour dire qu'on n'est pas plus bête en fait que les générations qui nous ont précédés. On est aux prises avec une sorte de dissolution tous azimuts, et ça, c'est inédit.
Chère Stéphanie.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a une accélération des multiplications de sujets d'angoisse, certainement à dessein, je dirais. Et comme vous disiez, il y a une nécessité pour les gens de se débrancher, et qu'ils viennent sur les médias indépendants ou pas. Je pense quand même, alors j'ai un peu d'espoir, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se débranchent et qui ont compris que le récit n'était pas la réalité. Voilà, j'aurais ça à dire, donc j'ai un peu d'espoir.
Merci à vous pour cet excellent débat. On va passer à la chronique de Philippe Perlin, mais avant ça, les petites annonces.
Votre masque.
Tous les 3 mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le pass carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale. Et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde.
Merci à vous d'être si nombreux, déjà 5000 personnes. Abonnez-vous à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, vous cliquez sur le lien, les 1 an de la lettre, et vous avez l'article inédit du général de Lavarde. Abonnez-vous à 200 000, à 200 000, je le dis. Grande fête, grande soirée, où vous serez tous invités, tous ici présents, vous serez invités. Donc abonnez-vous. C'est tout de suite. Cher Philippe.
La chronique, c'est sur Total. Alors là, on va aussi encore parler de souveraineté. Total, une des plus grandes entreprises françaises, a déclaré vendredi qu'il envisageait de faire sa cotation principale à Wall Street plutôt qu'à Paris. Alors, pour faire un bref rappel sur ce que représente Total, hein, c'est un des 6 super majors dans le monde. Il y en a que 6, c'est-à-dire des entreprises qui sont présentes sur toute la chaîne de valeur, de la recherche, extraction, exploitation, jusqu'à la vente en station service, quoi. Il y en a que 6, hein. Il y a Exxon, Shell, BP, voilà, et Total. Donc c'est une des plus grosses entreprises mondiales, c'est 100 000 salariés, dont un quart en France, une présence dans 130 pays, plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 22 milliards de bénéfices l'année dernière. Le chiffre d'affaires en France, c'est 23%, les trois quarts donc à l'étranger, donc une entreprise très internationalisée. Et donc Total est déjà coté au New York Stock Exchange, mais la cotation principale de référence, le cours de référence, c'est à Paris. Et donc Patrick Pouyanné a dit que à l'avenir, il pourra peut-être faire en sorte que la cotation principale se fasse à New York. Pour quelles raisons? Parce que les investisseurs anglo-saxons sont quasiment majoritaires au capital. Donc ce serait pour lui une suite logique, même si c'est une vision là qu'on peut trouver un peu purement financière. Bon, voilà. Mais il y a des raisons aussi plus profondes à ce départ éventuel. Bon, déjà, le fait que les actionnaires anglo-saxons soient si importants, ça montre la faiblesse de la France dans le domaine des fonds de pension. Moi, je défends la retraite par capitalisation. Enfin, qu'au moins, les gens aient le choix. S'ils veulent rester intégralement dans la répartition, ils peuvent le faire. Mais que ceux qui souhaitent consacrer une partie de leur cotisation retraite dans des fonds investis en actions, en immobilier ou autre, qui puissent le faire. Cette possibilité-là, en France, n'existe pas. Si elle existait, il y a une partie des salariés qui le ferait, et ça ferait des fonds de pension en France, qui pourraient financer l'économie, et notamment en
Total.
Au capital de Total, et voilà. Et ce serait un peu plus français, et peut-être que Pouyanné se serait même pas posé la question si le capital français était plus important. Voilà. Une autre chose aussi qui fait que Total a envie de partir, c'est que, déjà, ils sont harcelés par les écologistes. Hein. Aujourd'hui même...
Quoique, le sont en Amérique aussi, alors là.
Oui, non, mais quand même, parce que là, il y a quand même... Bon, Patrick Pouyanné, là, cet après-midi même, il était au Sénat dans une commission où il y avait en face Yannick Jadot, qui est un peu sa bête noire, voilà. Donc, et puis, il y a aussi, même au niveau du gouvernement, il y a des politiques anti-énergie fossile qui sont clairement affirmées par le gouvernement. Le gouvernement a récemment annoncé, d'ailleurs, qu'il allait autoriser le stockage de CO2 sur le territoire français. Alors ça, c'est quand même un truc. Hein. On va creuser des trous pour mettre du CO2, quoi, quand même. Hein. Ou on va utiliser des gisements d'hydrocarbures pour aller mettre du gaz CO2 qui proviendront d'usines. Donc, alors que le CO2, on rappelle, c'est pas un polluant, c'est l'aliment des végétaux, quoi. Mettre une ressource naturelle sous terre, c'est quand même un peu spécial. Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, a dit, je cite, « J'espère que certains se diront que cela rapportera plus de stocker du carbone que d'exploiter du pétrole. » C'est-à-dire que c'est une forme de suicide parce qu'on va priver la ressource végétale mondiale de CO2. Donc on préfère le suicide plutôt que le développement économique et la croissance économique en développant le pétrole. Donc c'est quand même assez délirant. Et tout ça se fait à base de subventions aussi, parce que les entreprises qui vont faire ça, ça rapporte rien de mettre du CO2 dans le sous-sol. Donc voilà. Donc c'est ce genre de débilité qui aussi, je pense, pousse Total à aller voir ailleurs. Et le risque, c'est que ce soit pas seulement la cotation qui est à New York, mais aussi une partie du staff, de la direction, c'est-à-dire que le centre social et le centre, les directions et le haut encadrement, au bout d'un moment, il ira peut-être aussi à New York.
Est-ce que ça voudrait dire que Total, du coup, ne serait plus français?
Alors, justement, et c'est le risque sur lequel je voudrais juste terminer ma chronique, c'est que si Total devient intégralement coté aux États-Unis, avec une direction américaine, avec peut-être un jour un patron américain, peut-être qu'il pourra y avoir une OPA et qui fera que Total deviendra une major américaine et ça s'appellera plus Total Energy mais Total US, quoi. Voilà. Et ça, c'est le risque qui malheureusement nous pend au nez, quoi. Voilà.
Donc là, ça veut dire, toi, t'es économiste et tu le vois, qu'il y a une fuite de nos entreprises, des capitaux, des diplômés, de tout ce que tu veux, vers l'étranger, quoi.
Voilà, c'est une sorte d'Alstom au ralenti. Alstom, ça a été fait de façon brutale
par la justice américaine qui a emprisonné un cadre français, etc., bon, qui a utilisé des moyens brutaux, là, ça serait de façon plus soft. Vous voyez, c'est simplement la cotation qui irait, puis l'actionnariat anglo-saxon qui monterait, et puis un beau jour, il y aura une OPA, on verra ça dans la presse, il y a une OPA, Total a un capital majoritairement américain, et donc c'est fini, c'est plus une entreprise française, voilà.
Et donc du coup, l'État ne pourra pas faire ses super impôts sur les super profits.
Ah bah voilà,
ça c'est fini ça.
C'est fini, c'est fini, on pourra plus pleurer sur la prospérité perdue, et voilà quoi.
Donc voilà ce qu'on aura gagné.
Voilà.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment une paupérisation du pays. Voilà, on est en 7 ans, on aura peut-être même bientôt L'Oréal, Peugeot, Renault, tout le monde sera parti.
Ça peut concerner d'autres sociétés parce que.
Bah, j'imagine.
Si L'Oréal aussi, c'est pareil.
Bah, c'est comme les dominos. Hein. S'il y en a un qui part, tout le reste part.
Je suis sûr qu'ils ont même LVMH. Je suis sûr qu'ils ont un actionnariat qui est aussi majoritairement anglo-saxon et ils pourraient prendre le même genre de décision et toutes nos belles grandes entreprises, bah, ils pourraient comme ça progressivement. Quitter
Paris, la plus grosse boîte du CAC 40, ce sera Otakos.
Voilà.
C'est la boîte française. C'est ça.
Vous voyez la beauté et la chance, d'une certaine façon, des dernières années, c'est qu'elle a rendu des logiques sous-jacentes manifestes. Et le cas de Total est assez éloquent en la matière. Sur l'assujettissement d'une grande entreprise française aux États-Unis, vous vous rappelez peut-être que Total a eu un patron qui s'appelait Christophe de Margerie,
qui est mort,
qui a eu un accident
malheureux et très étrange, ouais,
inédit dans l'histoire du bureau de l'enquête et analyse avec un engin de de-icing en Russie, parce qu'il avait décidé que Total continuerait de commercer avec la Russie. C'était sous-jacent, notre asservissement à l'Amérique était déjà là, mais on ne le voyait pas. Et comme tout s'accélère aujourd'hui, cela devient beaucoup plus visible, préhensible, et donc on peut aussi le combattre. Donc c'est pour ça que c'est un peu mon fil rouge là, depuis le début de cette émission. C'est aussi une chance.
Une chance ?
Cette accélération est une chance, c'est à la fois un drame parce que ça fait notre
ouais, une chance parce qu'on ouvre démoralisation les yeux
quotidienne, mais ça oblige chacun à se positionner. Et c'est vrai sur tous les sujets. Quand on inscrit l'IVG dans la Constitution, enfin, faut quand même juste rappeler ce que c'est qu'une Constitution. Hein. La Constitution, c'est le principe de fonctionnement d'un État. C'est pas le contenu des lois qui sont votées. Même le fait d'avoir mis la Charte de l'environnement était déjà, à mon avis, une erreur. Bon, donc quand on constitutionnalise l'IVG, ben, ça oblige chacun à se positionner sur cette question.
Alors,
bon, donc c'est aussi une chance.
J'ai une question d'auditeur qui nous dit, mais pourquoi ne pas les laisser partir et créer un autre Total, par exemple ?
Bah non, mais ça, c'est impossible. Justement.
Pourquoi c'est impossible ?
Mais justement, c'est très compliqué de constituer une entreprise comme ça. Total a racheté notamment Elf Aquitaine, qui a été dirigé par Loïc Le Forc-Pigeon, et c'est lui qui, notamment, a développé pas mal de gisements d'extraction de pétrole en Afrique. D'ailleurs, alors, en utilisant les moyens qui étaient utilisés à l'époque, et donc ça lui a valu quelques années de prison, surtout qu'il n'a jamais voulu donner de nom, et voilà. Et puis on a vu Eva Joly qui a pu se déchaîner sur lui, voilà. Mais je veux dire, c'est extrêmement long de constituer une entreprise de cette taille-là, parce qu'il faut négocier des gisements d'extraction. Je veux dire, si c'est uniquement distributeur de pompes à essence, ça, oui, bien sûr, on peut le créer, ça c'est facile, mais la difficulté, la valeur ajoutée et le poids géopolitique d'une entreprise comme ça, ça se fait pas en un coup de claquement de doigts, quoi. Voilà. Et le temps de constituer tous ces réseaux et d'être capable de rassembler toutes les compétences techniques pour faire tourner une entreprise comme ça, y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a que 6. Voilà. Et la France a la chance d'en avoir une entreprise qui est capable sur toute la chaîne de valeur d'être présent dans ce secteur crucial du fossile, pétrole et gaz.
Et puis en plus, au vu de la diplomatie française actuelle, ça va être compliqué d'avoir de nouveaux gisements.
Absolument, oui.
Mais tout va ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui préside à tout ça. Et il est logique, dès lors qu'on acte de la fin de la puissance française, il est logique de démanteler le réseau diplomatique et de nommer un analphabète au Quai d'Orsay.
Oui. Il y a une logique là-dedans.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut tout démembrer, voilà. Il faut tout vendre.
Je pense que c'est plus qu'une logique, c'est une révélation de ce qui était, en fait, qui était développé par beaucoup de monde. C'est que nous étions dépendants de l'Empire américain et que l'Empire américain étant en difficulté, de toute façon, de ce que je comprends des différentes analyses qu'on perçoit, c'est qu'il va récupérer ce qui a de la valeur dans ses colonies, enfin, dans ses pays satellites. Donc c'est assez logique. Et effectivement, je rejoins l'idée que ce qui est bien avec l'accélération, c'est qu'à un moment donné, même les gens qui sont, qui pouvaient être un peu, voilà, vouloir être dans une ligne classique, bah, c'est un peu, voilà, à un moment donné, même les complotistes sont en retard, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, ça va tellement vite.
Cher Stéphanie.
Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, il n'est pas question ici, au plus haut sommet de l'État, d'incompétence. Mais il est au
c'est une volonté pour toi.
C'est une volonté, c'est organisé, c'est méthodique, c'est méticuleux, c'est étape après étape. Il suffit d'être curieux, de mettre son nez dans les dossiers pour se rendre compte que non, il y a une très grande compétence au contraire à éteindre ce phare dans la nuit qui était.
T'étais
dans
au
la
courant nuit, de cette cotation de Total ?
Non, je ne savais pas. Et Total, j'ai toujours vu ça comme un paquebot très bien géré par notamment oui De Margerie et Pouyanné. C'est des patrons de paquebots remarquables. Et quand je vois que ça peut partir aux États-Unis, je trouve ça désolant, en fait. C'est vraiment désolant. Oui, j'avais eu quelques actions. Je suis un petit porte-monnaie. Non, mais je m'intéresse à ça de manière marginale. Hein. Mais parce que je m'intéresse à beaucoup de choses.
Non, mais vous avez le droit.
J'ai le droit,
voilà. Il
faudrait
que plus de Français aient des actions. Voilà.
Bah oui, t'as le droit d'avoir des actions.
J'ai le droit d'avoir des actions totales. J'ai toujours compris que c'était un paquebot, quelque chose de bien géré, de fiable, etc.
C'est pour ça que ça plaît aux Américains.
Et bah, évidemment, et parce qu'ils sont pas fous.
C'est une force géopolitique, une major, parce que c'est des liens avec des pays au plus haut niveau de l'État. Quand vous exploitez des gisements de pétrole d'un pays, vous avez accès au président directement. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose de crucial pour l'avenir de la France, quoi. Voilà. Et là, avec cette déclaration qui date de vendredi, voilà, qui a pas fait la une des journeaux,
mais qui fait jamais la une des journaux,
ça peut être malheureusement, ça peut être le début progressivement.
Je l'ai appris ce soir avec ta chronique.
Un éloignement de cette entreprise.
Je l'ai appris vraiment ce soir avec ta chronique.
Quand l'Amérique dépèce des entreprises françaises, quand l'Union européenne organise une espèce de fuite en avant autoritaire, ce sont des signaux d'affaiblissement. Voilà. Et des États-Unis, et de l'Union européenne, du monde occidental de façon générale, qui a perdu toute forme de crédibilité et qui est moqué à l'international. Et donc parfois, les gens se désespèrent en disant « mais vous vous rendez compte, on a de moins en moins de liberté, on n'a plus de fleurons nationaux ». Et ils ont raison d'une certaine façon. Mais c'est le symptôme non pas d'un renforcement de ce système, mais de son extrême fragilisation en fait.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand on parvient plus à produire soi-même comme aux États-Unis, on prend les actifs des autres. Oui, mais et donc évidemment, ça se fait à notre détriment aujourd'hui, et il faut le regretter, il faut le combattre, il faut lancer l'alerte, comme le fait Philippe Erlin. Simplement, c'est d'un point de vue global, le signe patent d'une superpuissance américaine de plus en plus conquérante, mais d'un vieillard en fin de vie qui prend ce qui reste à prendre parce que c'est le seul moyen pour lui aujourd'hui de donner encore le change.
Mais on a l'impression quand même que malgré qu'on ne produit plus rien, que voilà, nos fleurons peut-être vont partir.
Au moins là,
on a encore ça, mais on ne produit plus grand-chose malgré tout, que l'argent est encore là. Et oui, parce que...
Ah bah c'est l'argent de la dette. Mais ça ne peut pas durer. Hein, parce que ce qui fait que la France garde un PIB et un PIB par habitant, même s'il régresse, on fait encore partie des pays riches, entre guillemets, c'est grâce à la dette. Hein. Sans les 3 000 milliards de dettes, on serait au fond du trou. Donc pour l'instant, on peut s'endetter, ça va. Les anges de notation ne nous ont pas encore dégradés, ça va.
Est-ce qu'elles vont le faire bientôt ?
On suscite encore la confiance, peut-être, peut-être pas, mais je ne pense pas que c'est là-dessus que ça se jouera. Il faut se rappeler que pour les subprimes, les subprimes étaient notés AAA jusqu'à l'effondrement de 2008. Parce que une chose qu'il faut comprendre, c'est que les agences de notation sont payées par leurs clients. Donc c'est la France qui verse de l'argent à Fitch, à Moody's, à Standard & Poor's pour que ces agences notent la dette de la France. Ce qui est un petit peu bizarre, il y a un petit peu conflit d'intérêts. Donc les agences de notation, c'est plutôt les dernières à bouger. Elles vont attendre qu'il y ait un incident sur la dette pour dire « oh là là, mais ça va pas, on vous dégrade ». Donc il est fort possible que la prochaine qui doit nous mettre une note, la Standard & Poor's, il est fort possible qu'il ne bouge pas. Mais peut-être que le jour où il va y avoir un problème de placement de dette ou une crise sociale, ou des émeutes, à ce moment-là, les agences de notation diront « ça ne va pas ».
Donc ces notes ne sont pas fiables ?
Non, elles ne sont pas fiables. Mais pour l'instant, la dette de la France se place. Donc on peut continuer de s'endetter et d'avoir un PIB gonflé à l'hélium. Voilà.
Merci à vous. On va passer à l'actualité, les top tendances. Mais avant ça, générique.
Il dérange Big Pharma. Alors forcément, il est invité chez GPTV. l'homme aux 1 million d'abonnés sur YouTube, Thierry Casasnova, sera notre invité ce mardi 30 avril à 18h30.
L'idée dans laquelle on évolue principalement, c'est tu as des symptômes, la suppression de ces symptômes équivaut à la résolution du problème.
Son combat, la santé. Médecine alternative, alimentation, répression de l'État, vous saurez tout. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ce rendez-vous.
Merci à vous, vous êtes toujours très nombreux. Et oui, demain, Thierry Casasnovas, exclu Géopolitique Profonde, il sera là à ma droite. Il viendra de Perpignan, ici, pour vous. N'oubliez pas aussi de vous y abonner. Allez, on va passer au top tendance. Quel est le premier top tendance ? Matisse, tiens, voilà. Le jeune Matisse, assassiné. Je sais que tu avais deux choses à dire.
Typique de la logique que j'essaie de décrire dans mon travail. Cette société technologique, industrielle, a besoin de l'indifférenciation parce que c'est ce qui permet de transformer les individus en consommateurs et de lier les économies. Je veux pas rentrer trop dans ce... Je parle sous l'œil d'un spécialiste. Mais on organise les conditions du grand tout, c'est-à-dire on abat les frontières, et donc de la friction culturelle, et Matisse en a été malheureusement la victime, mais on ne rétablira pas les frontières ou on ne fera pas exécuter les OQTF pour éviter de nouveaux Matisse. Non, on utilisera la condition humaine, la liberté humaine, comme variable d'ajustement, et aujourd'hui on place des portiques de sécurité à l'entrée des lycées par exemple. Et donc, Matisse a été victime, et je pense évidemment à sa famille, à ses proches, a été victime d'une logique choisie par les gouvernements, qui est celle de l'économie monde, qui est celle du monde des choses, justement. Et voilà, et ça en est une victime supplémentaire. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de changement de logique, parce que ce monde-là a choisi cette logique, justement.
Merci beaucoup. Chère Stéphanie, j'ai l'impression que malheureusement, tous les jours, nous avons un fait divers horrible de la sorte, et peut-être même plusieurs parfois par jour.
Je pense, comme Rémy Tell, que les conditions de division de la société, je suis pour, enfin, je suis un petit peu émue, hein, voilà, mais une immigration doit être respectée. Et donc, pour être respecté, il faut que les choses se passent bien. Sinon, en fait, c'est le terreau de la xénophobie. Donc, dire qu'il faut faire respecter des OQTF, ce n'est pas être d'extrême droite. C'est simplement être ancré dans le réel et être simplement un être bienveillant et qui, voilà, j'en perds mes mots parce que je suis maman et que, voilà, il y a aussi de l'émotion dans cette histoire. Mais il ne faut pas confondre immigrationnisme, qui est un instrument politique, et immigration, qui me semble toujours nécessaire dans tout pays, qui ne doit pas non plus, effectivement, se renfermer sur lui-même. Et on a tendance, je pense, le politique a tendance à créer aussi cette confusion dans les cerveaux volontairement. On joue sur le sens des mots, et c'est toujours l'éternelle histoire. Celui qui va parler d'immigration va être un vilain facho. Mais simplement, moi-même, j'ai du sang mêlé, et je me sens totalement française, et totalement à l'aise avec ces sujets-là. Et je pense qu'on fait volontairement cette confusion pour entretenir cette immigration incontrôlée, où il n'y a pas d'intégration ni d'assimilation. Moi, je suis le fruit de l'assimilation, notamment italienne. J'ai aussi du sang français, ardéchois, lyonnais, peu importe. Et on mélange volontairement ça pour créer cette espèce d'ambiance malsaine où il y a des sujets qui deviennent tabous, on ne peut plus en parler sereinement, et c'est un vrai problème.
Justement, cher Martin, les souverainistes, c'est un sujet qu'ils ne veulent pas entendre parler. Parce que je remarque quand même que les souverainistes sont très dans le politiquement correct sur cette question-là.
Mmh. Oui, oui. Je pense que le choix qu'ils ont fait, c'est de se... Enfin, qui était un peu présenté par François Asselineau au départ, notamment, c'était de sortir des sujets clivants pour j'ai l'impression qu'ils en reviennent un petit peu quand même, puisque la réalité, enfin, revient à eux, quoi. Donc, voilà. De toute façon, je suis pas porte-parole de leur mouvement. Et j'ai pas d'avis tellement sur ce que c'est un garçon qui a été assassiné ou quoi.
Ce matin, oui.
Il s'est fait agresser, c'est ça ou quelque chose.
Poignardé par un jeune Afghan qui aurait dû recevoir une obligation de quitter le territoire français.
Comme celui, c'est arrivé il y a pas longtemps avec les agriculteurs. Bon.
Il n'avait pas d'OQTF, mais il avait déjà commis deux crimes comparables.
Ouais.
C'est menace de couteau, quoi. Voilà.
De toute façon, il y a un problème de
non, alors Philippot a réagi dessus. Hein. Mm-hmm. Contrairement à Sino, qui lui veut absolument pas aborder le sujet de l'immigration, quoi.
Mais pourquoi les souverainistes n'en parlent pas, d'après vous?
Si, non, mais Philippot en a parlé.
Oui, bon, il en a peut-être parlé, mais c'est pas une thématique centrale du souverainisme.
Si.
Mais ils ont peut-être peur d'être affiliés au RN, sans parler de ce sujet-là.
Philippot, j'ai réagi dessus.
J'ai peut-être un indice à ça. Vous savez, Victor Hugo disait...
J'ai raison, j'ai pas ou j'ai tort sur ce que je dis.
Alors, c'est faux.
Qui veulent pas...
Non, mais pour moi, et j'assume, même si ça déplaît, je pense que la question, par exemple, migratoire, c'est de l'ordre des conséquences et pas des causes. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une logique économique avec des patrons qui veulent faire venir des immigrés et après on dit « Ah bah oui, regardez le problème que ça pose en matière de sécurité. » On a une société où l'hyper-violence s'affiche absolument partout. Il y a des études qui montrent par exemple qu'à l'âge de l'adolescence, on a déjà vu dans des séries télé, au travers des jeux vidéo, ça avait été moqué quand Emmanuel Macron l'a dit, mais il n'avait pas forcément tort, des milliers de meurtres. On a une hyper-violence symbolique. On dit « Bah voilà, aujourd'hui, vous produisez plus, allez, l'euthanasie, etc. » Faut pas s'étonner que l'hyperviolence s'affiche au quotidien dans nos rues et s'exerce contre nos sœurs, contre nos filles, etc.
Non mais ça c'est fini, c'est plus les patrons qui font venir les immigrés, ça fait longtemps que c'est fini. Les immigrés viennent d'eux-mêmes. Et le problème c'est pas l'hyperviolence de la société, c'est l'hyperviolence de la société dont sont originaires un certain nombre de gens qui viennent en France sans demander la permission, voilà. Et en l'occurrence, le meurtrier de Matisse, quoi, voilà.
Alors, là, je
rappelle juste à propos de l'Afghanistan, il y a deux semaines, ils ont fait une manif, des Afghans ont fait une manif à Paris, parce qu'en fait, à cause de meurtres, mais en fait, de meurtres à l'intérieur même de leur communauté, et ils accusent la police française, machin, mais c'est à l'intérieur même de leur communauté, il y a eu deux ou trois morts. Un mec qui en a tué deux autres, et puis ensuite il a mis le feu à l'appartement, et puis cet abruti, il n'a pas pu sortir, et s'est jeté par la fenêtre, il est mort, quoi. Et ils ont fait une manif à Paris il y a deux semaines, ils ont tout cassé sur leur passage. Bon. Donc, faut pas parler d'hyperviolence de la société, c'est l'hyperviolence qui, on sait d'où ça vient. Voilà. Et on ouvre la porte, il y a plus de 100 000 Afghans qui sont venus en France récemment, il faut aussi bien comprendre que ceux qui quittent l'Afghanistan aujourd'hui, étonné que le pays est complètement tenu par les talibans, ce sont des gens qui partent avec l'onction des talibans, c'est-à-dire c'est des gens qui sont comme les talibans, ce sont des talibans.
Voilà, c'est un peu comme les anciens pays soviétiques qui ont ouvert la porte aux prisonniers.
Quand l'Union soviétique est tombée. Non, on peut pas comparer ça. Non, mais voilà. C'est des gens qui sont raccord avec le pouvoir en place, qui viennent en France, et donc et le problème des immigrés afghans devient un problème en soi. Voilà, je le dis.
Alors, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un problème spécifique à l'immigration et tous les criminologues reconnaissent qu'il y a une dimension culturelle dans la violence, et notamment du fait de la disparition de la figure du père. Et voilà, je vous invite à écouter, par exemple, ce j'ai oublié le nom du criminologue, mais quelqu'un de très connu. Non, c'est pas Hofer, c'est Berger. Maurice Berger, voilà, qui a beaucoup écrit sur la violence et la violence des adolescents. Et il y a une dimension culturelle, ce qui n'exclut pas le fait que la société néolibérale est une société extrêmement violente et qu'elle s'accommode tout à fait d'avoir des immigrés sur des scooters Uber Eats ou pour aller alimenter des vaches à clics dans l'économie numérique. Mais que quand il s'agit de gérer des populations différentes sur un même sol, là, ça pose problème. Et il y a une contradiction, et cette contradiction, une partie de la droite refuse de la voir. Or, elle contribue, elle aussi, d'une certaine façon...
Oui, mais malgré tout, ça se passe moins, par exemple, chez les Allemands, alors qu'ils ont une migration forte aussi.
Alors, je demanderais à voir... L'immigration allemande...
Il y avait eu des faits
divers. Ouais, je...
Le 31 décembre, on aurait parlé
de...
Mais il est certain que l'immigration pose un problème spécifique, et notamment en matière d'insécurité, ça c'est sûr.
Bon, deuxième top tweet. La Sorbonne. Voilà, pourquoi la Sorbonne? Parce que la Sorbonne est occupée par des militants. Alors, je ne sais pas s'ils sont LFI ou pro-palestiniens ou les deux. Qu'est-ce que tu en penses, tiens? Pas rien, c'est pas rien même. Hein. en réalité.
Non, mais c'est extraordinaire parce que ces gens-là, on ne les a pas entendus pendant
la crise. Pas rien, c'est-à-dire Panthéon, pour ceux qui ne connaissent pas.
Nous, on a quand même un point commun, tous, sur ce plateau, c'est que quand il y a eu des vraies discriminations en France pendant la période de l'apartheid sanitaire, on s'est engagé contre ces discriminations-là. Ces gens-là, ils faisaient dodo chez eux. Donc, c'est des résistants de pacotille.
Quoi, moi, c'est la bourgeoisie qui,
mais
justement...
Bien sûr, mais évidemment. Évidemment.
Qui veut s'en canailler.
Mais oui, ils fonctionnent avec des schémas qui sont des schémas à la fois poussiéreux et en même temps pathologiques. Enfin, le wokisme, c'est une pathologie. Je déteste le fait de prendre l'adversité politique sous un angle pathologique. Mais quand on en arrive à dire, comme Monsieur Beaugrand tout à l'heure, que celle qui dont naît votre enfant n'est pas sa mère, on est dans une expression pathologique, une expression, à mon avis, pathologique de la liberté. Et j'en reviens à ce qu'on disait au départ. Donc ces gens-là, en fait, sont les idiots utiles de ceux qu'ils dénoncent. C'est du petit théâtre bourgeois. Lorsqu'il y a eu des vraies causes à défendre, ils étaient aux abonnés absents.
Pour le coup, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie? Panthéon, parien, comme ça, là
Oh bah, j'en pense que, oui, le wokisme est une maladie mentale. Comme beaucoup de mots en « isme », ce sont des mots flous. Et j'en pense aussi, je reçois bientôt... je fais ma publicité.
Oh là là, allez, une petite pub.
Allez, je reçois Michel Maffesoli, mercredi, oh, bah, professeur c'est l'ami, émérite.
C'est l'ami de Rémi.
Beaucoup Michel, et j'ai énormément d'admiration pour
lui. Voilà, c'est son ami.
Eh bien, je le comprends. Vive Michel.
D'après, je fasse venir un de ces quatre. Il est jamais
très
venu.
Bonne idée. Eh ben, il viendra c'est volontiers, je le pense. Je vais lui transmettre le message.
Mais qu'est-ce que ça veut dire le fait quoi, là, que les, Sciences Po, Sorbonne, voilà, sont comme ça.
Là, c'est des manifestations de soutien.
Oui, pas. Voilà.
Bon, je suis...
Faut sortir de théâtre, là, un peu, là. Regardez.
Non, mais en fait, je ne suis pas propriétaire d'un smartphone, donc c'est difficile.
Ah oui, non, là, c'est vrai. Montrez le téléphone de Martin.
Un résistant technologique.
Oui, c'est regardez ce itinéris de 1998.
J'arrive à faire beaucoup de choses.
C'est vrai, il a raison.
Donc, quand c'est des top tweets, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais donc, non, concernant le... Enfin, je ne sais pas, donc, exactement, effectivement, je comprends que c'est plutôt des gens issus de la gauche qui soutiennent en ce moment la cause palestinienne. Moi, je dirais, pour une côté...
Oui, mais ils n'ont pas soutenu la cause des soignants suspendus, par exemple.
Oui, non, mais j'entends.
Qu'est-ce que vous en dites, tiens? Pourquoi, prendre en otage, par exemple, des étudiants, d'autres étudiants qui, par exemple, étudient, et ne pas avoir soutenu, à l'époque...
Mais bon, d'abord peut-être qu'il y a quand les événements se passent à l'extérieur et loin de nous, d'une certaine façon, c'est plus facile de s'engager, quoi. Pourquoi les gens se posent donnent à plein d'associations qui aident des gens à travers le monde et ont autant de mal à aider ce qui est proche de chez eux? C'est compliqué. Je pense que la crise du Covid et tout ça a mis les gens face à leur capacité ou leur incapacité à agir, à se questionner, qui n'est peut-être pas là, voilà. Mais bon, s'il faut quand même donner une note positive à ça, moi, quand j'étais enfant, sous notamment Jacques Chirac, on avait une politique vis-à-vis du monde arabe qui nous donnait une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis, etc. Donc c'est toujours bien de voir qu'il y a encore ça dans un moment où sur ce conflit israélo-palestinien, il y a eu une grosse pression qui s'est exercé, puisque quand vous souteniez le Hamas, vous étiez qualifié de terroriste, voilà. Mais effectivement, peut-être que c'est un engagement.
Tu fais rougir notre ami Philippe.
Oui, c'est normal. Tu soutiens pas le Hamas.
Mais c'est normal. On peut soutenir les Palestiniens sans soutenir le Hamas.
Ah oui.
À ce moment-là, on n'est pas terroriste. Mais si on soutient le Hamas, on est.
On va pas faire un débat là-dessus, parce qu'on sait ce que tu penses.
Il faut
Non, il n'a pas dit que soutenir
le Hamas.
Il soutient le Hamas. Il dit que la pression sur le conflit.
Ah oui, oui.
Il dit que la pression sur le conflit était plus forte que sur d'autres.
Voilà. Non,
alors, ce qui s'est passé à la Sorbonne aussi, c'est que, en fait, la police a délogé. Ils étaient dans la cour intérieure. La police a délogé les manifestants, alors que normalement, il faut obtenir l'autorisation du chef, du patron de l'université, du président de l'université, pour que la police puisse rentrer. Moi, je considère que ce droit du président de l'université doit être supprimé, parce que la loi de la République s'applique partout. Et je vois pas pourquoi le fait d'arriver à manifester, quelle que soit la cause, à l'intérieur de l'université, ça permettrait de la bloquer, d'empêcher les étudiants d'étudier, et puis ensuite de faire pression sur le président de l'université en lui disant « si t'appelles la police, on va te foutre d'autres grèves et compagnie ». Non. À partir du moment où il y a une occupation qui est illégale, la police doit virer les gens qui font une grève illégale. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire bravo au gouvernement d'avoir viré les... Bon, pour une fois que je
dis bravo
au gouvernement, voilà, j'ai un peu honte... Bon, voilà, on l'effacera au montage, mais en tout cas, ils ont viré.
On n'efface rien, on n'efface rien du tout.
Ils ont viré les mecs qu'occupait la Sorbonne, quelle que soit la cause qu'ils défendent, ils ont eu raison. Voilà. Et je dis bravo à la police de les avoir dégagés.
Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, cher Rémi. Donc, ton actualité, c'est voilà, à l'encre du néant. Ils se vendent bien ?
Oui, oui. Et
où est-ce qu'on peut le trouver ?
Sur le site des éditions du Verbeo, à la ouais. FNAC, dans beaucoup de librairies.
Alors, il faut soutenir les éditions du Verbeo, ouais. Sylvain Durin, éditeur indépendant. Il a d'autres aussi, la François-Xavier Consoli, il a d'autres auteurs, j'imagine.
Marco Bregon, que j'aime beaucoup.
Marco Bregon, oui. Comment s'appelle déjà son livre, Marco Bregon génial.
C'était Omegatown.
Voilà, Omegatown.
Omegatown, ouais. C'est le tome 1 qui est apparu il y a quelques semaines. Donc moi, je voudrais juste profiter peut-être de ce dernier temps qui m'est laissé pour remercier les gens et leur dire aussi toute mon admiration, parce que je sais qu'on vit encore une fois une époque qui est quand même très difficile, où il est difficile de se projeter, où on a l'impression que tout est remis en cause, que le sol se dérobe sous nos pieds. Ces gens-là tiennent, ils font des choses extraordinaires. Il se trouve que pour des raisons personnelles, professionnelles, j'ai eu la chance de parcourir quelque chose comme 60 000 km en France durant les 6 derniers mois sur les routes de France. Et les Français sont un peuple de génie et ils n'ont pas perdu leur génie. Alors dans beaucoup d'esprits, il s'est éloigné, mais pas chez tous. Et il suffit de quelques-uns. Et nous, on forme cette petite résistance, cette petite dissidence qui grossit et qui pose des jalons. Et il ne faut pas perdre espoir parce que des solutions vont se présenter. Lesquelles ? Je l'ignore encore. Et il faut accepter cette part d'ignorance.
Oui, on se dit des choses, on débat, voilà. On peut même un peu élever la voix, mais
moi, je vois que des gens qui tiennent, qui maintiennent des solidarités, voilà. Qui maintiennent vraiment. Des savoir-faire, qui font preuve de beaucoup de d'imagination pour contourner aussi le système qui leur est imposé. Donc, je veux les saluer. Voilà, et
des dédicaces bientôt.
J'aurai une conférence le 2 mai, c'est-à-dire jeudi, à l'association Romulus et Rémus, qui est dans le 6e arrondissement de Paris, juste à côté de Saint-Sulpice. Et puis, il y aura sans doute des dédicaces dans plusieurs librairies françaises. Là, tu me prends un petit peu au dépourvu. En tout cas, ce livre va continuer.
Bon, et on te retrouve aussi sur TVL pour le journal et puis pour et d'autres émissions, je crois, encore, non ?
Oui, il y a les Zooms qui m'offrent la chance de rencontrer des écrivains, des gens qui font l'actualité. Et on est nombreux vraiment à faire cette actualité de la dissidence, chacun avec sa spécialité, chacun avec sa nuance, chacun avec son parcours. Et c'est aussi l'une des raisons de ne pas désespérer du moment que nous traversons, qui est un moment difficile. Mais il y a cette phrase, je crois, dans la Bible qui parle des douleurs de l'enfantement. Ben voilà, c'est peut-être ce à quoi on assiste, les douleurs de l'enfantement, d'un nouveau monde.
Merci à toi, cher Rémi. Stéphanie Reynaud, comédienne et mettez là le
Tribune Libre.
Non, pas que ça, mais le
La Cagnotte.
La Cagnotte, voilà, pour ton ami réalisateur.
Alors, pour Alexandre Triaca, comédien réalisateur. Alexandre Triaca, nous allons tourner en septembre-octobre prochain un moyen-métrage qui est une satire politique dans l'état d'esprit des films italiens des années 70 sur la période des années de plomb, voilà, qui était une tension particulièrement élevée en matière d'ambiance politique. Et donc, ça va s'appeler « En avant ». Donc vous pouvez participer à la cagnotte, elle se trouve sur Papayou, c'est un site très pratique où en plus ce n'est pas très onéreux, vous donnez ce que vous voulez pour alimenter un petit peu la cagnotte, donc c'est très souple, je répète, ça s'appellera En avant, et donc c'est un casting dissident, et donc ce sera réalisé par Alexandre Triaca. Et je reçois aussi pour Tribune Libre Michel Maffezoli bientôt, l'ingénieur Kaji sur le mythe hollywoodien du 11 septembre, avec le phénomène d'armes à énergie dirigée et la poussiérisation. Je vais recevoir le lanceur d'alerte Jim Leveilleur qui vit au Maroc. Et je participerai à deux tables rondes avec notre collègue Nicolas Bouvier, une sur l'enfance et l'autre avec le docteur Alouest qui est un humoriste sympathique.
Et on salue notre ami Alouest et Nicolas Bouvier. Merci à toi, cher
Merci
Stéphanie.
Merci à vous.
Martin Loisillon, comédien, metteur en scène, une soirée chez Offenbach à Passy, au théâtre de Passy, de l'opéra en plus. Metteur en scène d'opéra.
Oui, c'est ça.
Un nouveau métier, ça.
Bah non, j'avais déjà mis en scène un spectacle auparavant, mais voilà, ouais.
Donc c'est quoi, c'est
En fait, c'est les morceaux célèbres de Jaco Offenbach qui sont réunis dans une seule œuvre. J'ai écrit un petit livret pour que ça fasse une seule histoire. C'est une soirée chez Jaco Offenbach avec son domestique et la visite d'une princesse, et les gens réentendent les morceaux célèbres d'Offenbach. Voilà, c'est très joyeux, c'est très drôle.
Ouais.
Et donc dans cette période un peu tumultueuse, c'est les gens ressortent avec le sourire, donc ça c'est agréable. Mais je suis quand même pas venu pour ce spectacle.
Mais non, mais voilà, il faut en parler, c'est bien. La culture, il faut parler de culture.
Non, mais c'est bien.
Allez-y.
Avec une amie commune.
Oui, elle est connue.
Non,
je ferai une petite parenthèse sur ce spectacle, peut-être, pour dire une chose. La première fois, en fait, le théâtre du Petit Monde avec lequel je travaille, on avait fait une tribune pour refuser le pass vaccinal. Et on a créé ce spectacle initialement pour les collectifs et dans un esprit justement de spectacle qui pouvait se diffuser dans des formes un peu alternatives, puisqu'ils sont trois chanteurs et une pianiste. Voilà. Alors qu'on avait d'autres spectacles qui étaient beaucoup plus gros et donc c'était plus compliqué. Donc la naissance de ce spectacle a été faite grâce à un collectif qui se situe en Essonne, et ce sont mes amis que je salue, parce que c'est grâce à vous que ce spectacle existe et vit. Voilà, donc merci.
Et enfin, le collectif pour l'Union donc voilà, on a des souverainistes.
Alliance Résistance 2024, vous pouvez nous suivre sur Telegram, on a un fil Twitter.
Alliance Résistance 2024,
exactement.
Voilà, pas trop vite.
Alliance Résistance 2024.
Voilà, notre ami réalisateur va faire des minutes supplémentaires, ne vous inquiétez pas.
Et puis, voilà, on continue notre démarche et on va publier tout là ce soir ou demain une lettre ouverte adressée à François Asselineau et ses équipes.
D'accord.
Sur notre
où elle sera publiée ?
Ben, on va essayer de la publier sur nos réseaux. Donc sur nos réseaux Telegram, je vous la ferai suivre éventuellement.
D'accord.
Si vous pouvez la relayer. C'est aussi une des victoires de notre action qu'on voit, c'est qu'on est un groupe de citoyens qui on n'a pas de capacité particulière. On se met en lien pour des actions précises et on a quand même réussi à faire une petite campagne média, aussi modeste soit-elle, mais sur ce sujet-là, et en partie en notamment grâce à vous. Donc voilà, donc on vous relaiera ça, et l'idée c'est que les citoyens soient aussi informés de ce qui se passe, et c'est eux qui peuvent aider à ce que les choses bougent. Donc on en appelle aussi aux militants sympathisants, solliciter et sursolliciter ces candidats pour.
Donc on va répéter, comment ça s'appelle ?
Alliance Résistance 2024, vous pouvez trouver ça sur Telegram et sur Twitter.
Voilà, voilà, c'est marqué, on l'a marqué là sous votre nom, Alliance Résistance 2024. Et enfin, Philippe Erlin, économiste. Je sais qu'il y aura une nouvelle version du Bitcoin Comprendre Investir.
Voilà, et puis un article que je suis en train d'écrire aussi.
Pour le mois de mai ?
Et qui sortira dans le prochain numéro, pas mai, mais plutôt juin.
Juin, sur quoi ?
Sur le Bitcoin et sur l'analyse du cours et sur le modèle stock to flow qui permet de comprendre la dynamique du cours. Donc je suis en train de le rédiger. C'est quelque chose qui n'est pas très diffusé comme information.
Il a combien là, le Bitcoin ? Il est bien là ?
On est à 62 000 à peu près dollars. Donc oui, ça va.
Bon, ça va.
Oui, c'est bien.
Bon, ça va. Alors, écoutez-le, ça va. Ça veut dire que ça va. Vous pouvez y aller. Merci, cher Philippe. En tout cas, merci pour ce brillant édito. Merci à vous d'avoir été si nombreux, 5500 personnes ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, les 1 an. Et demain, voilà, je vous attends demain soir. Avec Thierry Casasnova, c'est une exclue Géopolitique Profonde. Passez une excellente soirée. Ah oui, je remercie aussi la Réal, hein, je l'oublie, hein, parce que sans qui nous ne serons rien, le réalisateur, merveilleux réalisateur, le Spielberg de GPTV. Passez une excellente soirée et à demain. Allez, salut, ciao.